Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Resident Evil 3, le remake. Et oui, on l'a vu en avance. Enfin, pas moi, mais il y a des gens qui l'ont vu en avance. On va parler de The Longing et on finira par Blood Roots. Voilà, petit programme, mais c'est vrai qu'on a enchaîné, je pense, je ne sais même pas combien d'émissions, 4, 5, 6, environ 1h30. Ça fait quand même beaucoup, donc on va essayer de recompacter un peu.
On est presque à jour avec 2019.
On est presque... Ouais, on est... Ouais, ouais.
Quasi, il y a peut-être 2-3 dossiers encore qui restent.
Il y a 2-3 dossiers, mais on attend la version console d'un des gros jeux de la fin d'année pour en reparler sérieusement. Et peut-être une version française qui sait... Bon, on ne va pas revenir sur ces débats. Bref, le reste du programme, vous connaissez avec la chronique de Jérémy Klitskin, le com des com, etc. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Julie Le Baron, bonjour Julie.
Bonjour Quel enthousiasme.
Patrick Elio, bonjour.
Bonjour Erwan.
Patrick et Marius Chapuis, bonjour Marius.
Salut.
On commence, alors selon ma liste, on commence avec toi Patrick.
Oui,
avec,
adjugé, vendu, c'est fait. Le 6 mars, c'était la fin de la mise en vente aux enchères de la Nintendo PlayStation. Non, ce n'est pas une erreur de nom, c'est bien son nom, cette étrange bestiole, une sorte de chaînon manquant qui a fait pas mal parler d'elle il y a quelques semaines, lorsque on a appris qu'elle était mise aux enchères. Bon, pour rappeler un petit peu le contexte, cette machine, c'est une sorte d'ovni, c'est une machine rescapée de laboratoire, une machine de...
Un prototype
qui a été construit, alors il y avait eu 200 exemplaires environ à l'époque, c'est l'époque où Nintendo se rapproche de Sony en leur disant, voilà, vous allez nous préparer un lecteur de CD-ROM pour la Super Nintendo à l'époque, et puis ils avancent ensemble sur ce projet qui se matérialise aussi sous la forme d'une machine hybride, on va dire, la Nintendo PlayStation, qui donc est un mix entre une Super Nintendo boostée avec un lecteur CD-ROM intégré. Donc voilà, cette machine était pendant des années restée ce qu'on appelle une machine qu'on voyait dans la presse avec des artworks, des choses, et tout le monde pensait qu'elle n'existait pas. Il y avait eu 200 exemplaires qui ont été détruits suite à cette mésaventure. Évidemment, ce mariage Sony et Nintendo a complètement capoté. Nintendo a décidé de faire machine arrière et a même posé un vent assez douloureux à Sony lors en 91, lors d'une conférence, en se rapprochant de Philips. Et ça, c'est une sorte d'autre histoire dans l'histoire qui va donner lieu à des Nintendo un peu, enfin des Mario et des Link, des Zelda un petit peu inavouables sur console CDI. Et c'est encore une console, oui. C'est un autre sujet. Donc cette Nintendo PlayStation disparue et puis un prototype a été retrouvé. C'est un collectionneur, Terry Diebold, qui avait mis la main dessus via le stock de Olaf Olafsson, qui était le président de Sony Computer à l'époque, dans les années 90, qui avait gardé a priori un modèle. Donc évidemment, autant dire que cet assemblage de plastique a une valeur historique dans l'histoire des machines, l'histoire des confrontations comme ça entre marques. Ces deux marques qui se sont rapprochées avant de complètement devenir antagonistes et de devenir concurrents. Donc Diebold avait décidé de mettre la machine aux enchères. On avait appris qu'il avait... je pense qu'il est un peu déçu, le monsieur, parce qu'il avait dit non à une proposition de rachat de plus $1 million, quand même. Hein. Il avait dit non, je vais la mettre en vente. Et donc là, elle vient de partir à $360,000 aux enchères. C'est un certain Greg McLemore qui l'a acheté, un fondateur de Toys.com et Pets.com, qui devient donc le propriétaire de cet objet de collection. Alors, moi, je suis toujours un peu... Ça m'ennuie toujours qu'on mette une étiquette, une valeur comme ça marchande sur un objet quand même qui est, pour moi, un objet de collection. Et je reviens toujours sur cette citation d'un archéologue bien connu, sa place est dans un musée. Donc, a priori, ce McLemore a l'ambition de créer un musée, donc tant mieux, c'est plutôt une bonne idée, je pense que... Voilà, l'acte de propriété de la machine, qu'elle soit un collectionneur richissime qui va, c'est peut-être, il y a peut-être aussi un besoin de l'entretenir.
Est-ce qu'elle marche?
Oui, il y a des vidéos qui sont sorties justement.
Non, parce que c'est un... ouais, mais c'est...
J'en avais parlé chez nos amis de Retrodash.
On met quel CD dedans?
Alors, elle lit les CD audio, je crois. Il y a un YouTuber qui... D'ailleurs, c'était amusant, ces vidéos où tu voyais ce propriétaire qui était à côté d'un... J'ai plus le nom de ce YouTuber high-tech connu pour justement travailler sur des machines comme ça, faire du bidouillage. Et tu avais donc le propriétaire qui avait un œil très, très inquiet sur l'ouverture de cette machine, le déballage. Et elle fonctionne. C'est pour ça qu'elle est passionnante. Elle est fascinante parce que c'est un prototype.
La console rétro à 300 000 boules, tu fais attention quand même.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as envie de l'utiliser derrière?
Regardez ces vidéos, on pourra remettre le lien si vous voulez, elles sont fascinantes parce que voilà, on voit le propriétaire très inquiet de voir l'ouverture, les plastiques qui... parce que c'est du prototype, donc c'est une machine assez fragile, mais encore une fois c'est un objet rare et qui doit être expliqué, qui doit être montré, c'est un objet assez fascinant qui n'a pas existé.
Ouais.
En série, donc qui est d'autant plus.
C'est d'autant une espèce plus, de trace de multivers.
Ouais, c'est dans une dimension parallèle, on joue tous sur Nintendo PlayStation 2 ou 3 ou 4 ou 5. Et donc voilà, c'est évidemment que c'est fascinant et c'est très bien qu'elle ait survécu, en tout cas que cet exemplaire-là ait survécu. Et on imagine à ces centaines, a priori, hein, c'est ce que j'ai lu sur certains sites, des centaines d'exemplaires avaient été produits en prototypage, ont été détruits. Donc voilà, c'est...
Ils ont été enterrés dans un désert.
Cassés à coup de massue, parce que je pense qu'il y avait aussi
au Nouveau-Mexique.
Des clauses de confidentialité sur des machines comme ça, les prototypes, en général, tu les détruis pour pas que ça
ressorte. Tu voulais parler d'un anniversaire.
Oui, je pense que toutes les semaines, on va pouvoir faire un anniversaire. Hein, nous rentrons dans des phases cycliques. Nous sommes en 2020, donc voilà, les années commencent à passer. On parlait de la PS2 au Japon.
Les années passées avant aussi.
Oui, c'est vrai, mais là, donc là, nous sommes observateurs témoins de ce passage de décennies même à vitesse grand V. Alors moi, c'est une vidéo que j'ai reprise sur Twitter cette semaine qui m'a fait marrer de la revoir parce qu'elle avait pile 20 ans. Je crois que elle date du 10 mars 2000. C'est lors de la GDC, la Games Developer Conference. C'est la présentation en avant-première de la Xbox par Bill Gates himself qui vient présenter donc la machine, le concept. Alors la machine, attention, c'est pas la Xbox pavée qu'on connaît, c'est le fameux X métallique qui, je crois, maintenant est dans le musée Microsoft de Seattle. Il me semble, je crois qu'ils l'ont gardé, ils l'ont mis en avant. Donc il avait Seamus Blackley qui vient présenter. Alors non, on est à la GDC. Donc la GDC, on est du B2B, on est plutôt pro, c'est-à-dire qu'on n'est pas à montrer des jeux qui vont sortir. On est en plus très en amont du lancement de la console. On est sur des avalanches de chiffres, de promesses de ce que pourra proposer cette fameuse Xbox qui a son nom. Par contre, le nom est bien mis en avant. Le concept, alors voilà, Nvidia qui travaille dessus, etc. C'est 40 minutes de vidéo, donc plutôt pour les pros. Alors il y a des ce qui est intéressant quand on revoit la vidéo, elle a quand même 20 ans, mais elle est assez visionnaire, elle est intéressante à revoir, à écouter, parce que Bill Gates parle de pas mal de choses qui sont dans notre quotidien d'aujourd'hui, mais vraiment, il parle de télécharger des démos, il parle évidemment beaucoup du disque dur qui est en série sur la Xbox, c'était la première, il y avait eu quelques essais, notamment PS2 avait eu un disque dur, mais optionnel, donc il n'était pas intégré à la machine. Il le dit d'ailleurs, c'était une des décisions les plus difficiles à prendre d'inclure un disque dur de 8 gigas dans la machine, parce qu'évidemment, il y a des coûts etc. Donc, mais il dit que ça ouvre plein de portes, télécharger des démos, avoir accès à des sauvegardes via quasiment des univers persistants, puisque la machine, via le disque dur, enregistre pas mal de données, plus que sur des supports fixes.
Mais c'était il y avait le Xbox Live, enfin c'était dès la
Alors
première...
c'est un peu plus tard, hein, non, le Xbox Live, ouais. Je crois que c'est 2002.
Ouais, c'est oui, un mais petit c'est, peu plus tard. C'est arrivé sur cette
et
console.
Ça arrive, évidemment, c'est la Xbox, elle défriche pas mal de choses. Et surtout, ce qui est, on voit très bien qu'il communique pas mal pendant la conférence sur l'environnement Windows, qui est rassurant à un moment où la PS2 arrive, fait beaucoup de bruit, mais on sait qu'elle est compliquée à maîtriser la PS2. Donc il y a aussi cette réplique de Microsoft.
L'avenir va lui donner tort.
Qui communique beaucoup sur l'environnement Windows. Bon, après, 20 ans après, mine de rien, c'est qu'on pouvait rigoler à voir Bill Gates faire ses mouvements de main pour présenter sa machine, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, ils sont toujours ils poussent des bras. Et quand on voit le Game Pass, on se dit qu'ils ont quand même réussi, justement, avec cette avance sur les services, sur le côté connecté, à bien se faire une place dans le jeu vidéo. Alors, on se rappelle, hein, moi je me rappelle encore du lancement français de la Xbox, c'était loin d'être facile, elle était très chère, elle était à 479€, je crois, début 2002. Et je me rappelle quoi, le lancement a été très long. Je me rappelle être allé sur les. On parlait du Virgin la semaine dernière pour la PS2. Et je me rappelle que le lancement de la Xbox sur le Virgin, j'y suis allé et il ne se passait pas grand-chose. C'était compliqué. N'empêche qu'en 20 ans, ils ont quand même réussi à bien remonter la pente. Je vous invite vraiment. Alors, le GDC, il y a une rubrique vidéo. GDC Vault.
Je défends à 100%.
Allez voir ces vidéos.
Toutes les vidéos de la GDC sont géniales.
Les
vidéos de la GDC
sont des moments super
indispensables. Et tu as une rubrique GDC Vault où tu as toutes les conférences des anciens game designers. Voilà, le créateur de Loom, le créateur de Gauntlet, le créateur. Mais c'est dingue. Et c'est un vrai trésor, le Vault. Il porte très bien son nom.
Oui, non, mais c'est...
GDC Vault. Alors voilà, une vidéo comme ça avec Bill Gates, c'est génial à regarder parce que tu apprends toujours. Ah oui, je ne vous ai pas parlé, à la fin, tu as plein de guests.
Ouais, non.
Tu as des gens de Rockstar, tu as des gens d'Infogrames qui apparaissent en fin de vidéo pour justement parler des promesses de l'Xbox. En tout cas, GDC Vault, allez-y, vraiment un vivier. Vous pouvez
faire
des heures.
C'est le truc qui m'a le plus embêté avec l'annulation de la GDC, c'est que dans quelques semaines, on n'aura pas les vidéos de toutes les conférences.
Il y a quand même la vidéo pour moi que je regarde mais régulièrement, c'est le Lucasfilm, les Lucasfilm Years. Ce sont tous les pontes de Lucasfilm, Games de l'époque, qui sont rassemblés. Ron Gilbert, David Fox. Tu as une heure de conférence où ils te parlent de Lucasfilm Games. Et tu te poses, tu prends un café, tu regardes ça, ça dure une heure, mais c'est un nectar. Allez voir ça tout de suite. GDC Vault, je crois qu'il y a une vidéo, il y a une chaîne YouTube
avant.
Officielle.
On va faire une émission avant.
Bah, on peut, hein. Mais...
Marius, c'est l'arrivée assez inespérée, en fait, d'un jeu sur PC.
Inespéré, inattendu, parce que ça a 3 ans, c'est pas non plus...
Qui te tient à cœur, mais ça te tient à cœur.
Non, ça me tient pas à cœur, parce que ce jeu-là, je ne l'ai pas fait jusqu'aux dernières vacances, où j'ai passé 50 heures de façon complètement étonnante sur Horizon Zero Dawn, qui est un monde ouvert. Moi, ça me saoulait, j'avais l'impression de loin que ça ressemblait à une espèce d'Assassin's Creed mêlé à du Primal. Et en fait, c'est très chouette, et le voilà qui débarque sur PC, c'est assez marrant de voir... que c'est pas complètement anodin parce que le nouveau patron de Sony Worldwide Studios, c'est le patron, enfin le fondateur de Guerrilla Games qui est derrière le jeu. Et les deux gros jeux qui pour l'instant sont des exclus PC, des exclus Sony qui passent sur PC, sont liés à Guerrilla, puisqu'il y a celui-là et Death Stranding qui est fait avec le même moteur, le Decima.
C'est un traître ?
Non, pas du tout, mais c'est marrant de voir les petites connexions.
Non, mais c'est étonnant parce que pour eux, c'est plutôt bien d'avoir un jeu qui reste exclusif. Bon, on parle PC, donc
oui,
on
passe la guerre après de plateforme. Après 3 ans de...
Mais c'est rigolo ce que ta réaction, parce que, évidemment dans leur grande...
mansuétude.
J'allais dire intelligence collective, il y a évidemment des fans de Sony qui hurlent à la trahison, des fans de PlayStation qui hurlent à la trahison et avec leur... on sait que ce sont des gens mesurés et qui savent...
la portée.
Voilà, et bah, ce sont des gamers.
Le tempo, évidemment, comme tu dis, le jeu n'est pas tout récent et c'est très bien
qu'il
ait une seconde vie, ça va le relancer.
Ça donne un peu de visibilité au truc, ça lui redonne un petit élan.
Death Stranding, c'est un peu différent.
Death Stranding, c'est plus récent, donc c'est étonnant.
Et surtout, ils avaient communiqué sur la sortie PC à une semaine du lancement PS4. Ouais. Où là, c'était beaucoup plus problématique, je pense, en termes d'image, de com et de...
Voilà, et puis même, très bêtement,
T'as
des exclus qui sont censés attirer les joueurs vers ta console. Si tu leur dis, attendez un petit peu, vous l'aurez sur votre PC.
Ils avaient peut-être peur de se faire review bomber par des joueurs PC. Ils se sont dit, on va
Ou alors la PS5 sera très accoquinée avec le PC. Il y a peut-être des barrières qui vont complètement sauter.
Wow. Tu veux dire qu'on aura un Game Pass.
J'en sais rien.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Game Pass géant.
Moi, j'attends que ça, hein, que la guerre des consoles s'arrête.
Ah bah ouais. En tout cas, que le PC, clairement, il y aurait.
Bah, vu que la mais vu que le PC c'est pareil que Xbox.
Ouais.
Oh là là.
Non mais le PC peut devenir justement un autre point de concurrence entre les consoles. Tu vois sur des justement sur les jeux simili exclusifs, ça peut être un autre point de collision.
Who knows. Bref, le point coronavirus, lavez-vous les mains, c'est que en mai ou en juin d'ailleurs, il va y avoir un truc qui va manquer, non, Julie ?
Oui, quelle manière subtile d'introduire. Et oui, car du 9 au 11 juin devait se dérouler l'E3 et ça faisait un moment quand même qu'il se murmurait
que c'était mal barré.
Ouais. Déjà, l'annulation de la GDC, donc, qui nous déçoit tous énormément, avait été annoncée. Et donc l'E3, c'est officiel depuis cette semaine, depuis mardi, je crois. Donc on a annoncé dans un communiqué que cette édition n'aurait pas lieu. Donc pour la première fois en 1995, le salon n'aura pas lieu. Et plusieurs éditeurs ont rebondi derrière pour dire qu'ils allaient faire leur conférence en ligne. Mmh. Et moi, ce que je me demandais d'un point de vue plutôt néophyte par rapport à vous, c'est est-ce que... Enfin, moi, ma vision de l'E3, en fait, ça a toujours été la grande messe du jeu vidéo où se retrouvent donc des joueurs, des fabricants, des développeurs qui montrent... Qui montrent leur jeu à venir. Et j'avais l'impression qu'au-delà de quelques apparitions impromptues de Keanu Reeves ou Ikumi Nakamura, qui étaient assez amusantes, il n'y avait pas grand-chose. C'était une grosse foire. Et je me demande si ça constitue réellement une grande perte, en fait, pour vous, sachant qu'on pourra assister à toutes les conférences en direct.
Ouais, alors... je suis néophyte par rapport à vous. Alors déjà, on n'est pas si vieux que ça. Hein,
Pardon.
Bien nous replacer dans notre contexte. De
non.
Ok, boomer.
Allez. Le truc, c'est que oui, vu d'ici, ça va pas être une perte énorme. Moi, j'ai pas fait énormément de 3, moins que toi, Patrick. Je pense j'en ai fait 2.
C'était croisé d'ailleurs.
Oui, et c'était il y a longtemps, hein, pour le coup. Mais j'avais quand même ressenti un truc qui était assez impressionnant, c'est qu'il y avait quand même un moment dans l'année où tout le jeu vidéo se déroulait à un seul endroit.
Bien sûr.
Il y avait une centralité. Pendant cette semaine, il y avait tout le jeu vidéo mondial était à Los Angeles, était à cet endroit-là. Mmh. Et alors, effectivement, en termes de rayonnement vers le grand public, ça rayonnait par des conférences, par des annonces de jeux, par généralement des cinématiques et des jeux précalculés qui ne ressemblaient en rien aux jeux qui allaient sortir. Ça ressemblait à des annonces de consoles et des avalanches de chiffres et des paillettes et des choses comme ça. Ça, évidemment, c'est ce qui transpire de l'E3 et, grosso modo, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir le même genre d'annonce. Tout le monde va se servir de ce créneau temporel pour concentrer des annonces ou en tout cas faire des trailers et tout ça. Mais je pense...
Je crois que l'E3 a annoncé qu'il ferait un truc en ligne, de toute façon. Oui. Ils auraient une plateforme qui servirait à... Après, je pense que c'est pas forcément ce qu'on attend non plus.
Mais... J'avais quand même l'impression que cette centralité s'était un peu étiolée au fil des années, vu que plusieurs éditeurs disposaient de leurs propres conférences. Sony avait annoncé son absence l'année dernière. Donc effectivement, il y a quand même ce côté rendez-vous qui je pense est important pour les joueurs, même qui la suivent de loin. Mais au-delà de ça, ouais, c'est...
Mais je pense qu'il y a toute une partie industrielle que nous, on ne perçoit pas non plus. Notamment dans un moment où il y a énormément de production indépendante ou qu'on appelle indépendante, ou en tout cas ou une sorte de retour du AA aussi, du jeu avec un peu de budget, qui a besoin d'un peu de budget, mais qui n'est pas besoin des 150 millions de dollars. Et y a pas mal de choses, je pense, qui se jouent à ce moment-là.
En termes de pub, mais peut-être que les deals, j'ai l'impression que l'annulation de la GDC est plus importante.
Ouais, peut-être.
Pour le côté vraiment business.
Ouais.
Et la visibilité de petits éditeurs qui peuvent, enfin, de petits développeurs qui peuvent contacter les éditeurs et trouver.
Ça restait avant tout une caisse de résonance médiatique énorme, l'E3. C'était ça, c'est que ça galvanisait vraiment la com. Tous les, même les médias très grand public parlaient de l'E3. C'était ça la force aussi, c'est de capter toutes les caméras, tous les micros à un moment de l'année. C'était une sorte de point d'ancrage. Moi, ça fait quelques années que je ne l'ai pas fait, mais je me rappelle encore. Tu as évidemment, tu avais les grands stands, genre la foire avec la musique, les concerts, mais tu avais aussi, je me rappelle, c'était le Kentia Hall où tu avais justement, tu avais le côté plus indé, où c'est là où souvent tu pouvais dégoter des trucs ou rencontrer des développeurs. Donc, il ne faut pas non plus oublier ça. C'est que tu avais ça, tu avais Devolver, je crois, qui était toujours aussi dans ces
qui était connu pour leur stand.
Autour de là, mais voilà, tu vois, il y avait.
Dans un parking à côté, hein, Devolver.
Alors, je pense qu'ils s'amusaient du côté, justement, grande foire de l'E3, mais ça faisait. Il se greffait l'E3 malgré tout, et c'était vraiment un point de... Ben, y avait l'avant et l'après E3 dans l'industrie depuis longtemps. Ça fait quand même quelques années qu'on parle de ce coût malgré tout. Il y a un coût de production. On sait que l'E3, c'était préparer des démos pour les studios. Il y avait un coût de production, un coût d'effort, c'était un travail l'E3.
Ouais.
On en parle depuis un moment. Il y avait un coût aussi carbone. C'est vrai que moi, j'ai connu l'E3, il y a presque une dizaine d'années où on n'y pensait quasiment pas. C'est-à-dire qu'on prenait l'avion à plusieurs, machin. Aujourd'hui, tu es obligé de penser à tout ça, tu vois, au coût qu'a un salon comme ça. Est-ce qu'il est encore vraiment dans l'air du temps? Alors là, c'est un accident, évidemment, que c'est une mauvaise nouvelle qu'il soit annulé cette année, parce que c'est, encore une fois, c'est un point d'ancrage. C'est, en plus, c'était quand même une édition qu'on attendait particulièrement.
Ça vient après quelques E3 de transition. Entre
était en transition, donc le 2020, on l'attendait vraiment excité. Comme...
C'était l'E3 des nouvelles consoles. Hein,
comme champagne, les annonces vraiment formelles de nouvelles machines, même si Sony n'était pas dans le coup. Mais bon, voilà, il y avait une dynamique qu'on s'attendait à ça. Et puis même côté presse, suivre les conférences, on savait que tout se passait à un moment donné. Donc oui, il y avait un temps fort de l'année, clairement. Et ça va manquer, clairement, en termes de, tu vois, d'impact et de caisse de résonance de l'industrie, notamment. Mais il ne faut pas être nombriliste, c'est le monde entier là, qui est en train de se prendre des vraies questions sur les JO. Le jeu vidéo, c'est parmi d'autres choses. Mais à notre niveau, dans l'industrie du jeu vidéo, on peut imaginer l'impact. L'E3, c'est évidemment un voyant, c'est un symbole. Mais on peut imaginer si les nouvelles consoles qui étaient prévues en fin d'année.
On va laisser ça pour le point coronavirus de la semaine prochaine.
On s'en garde bien.
Parce qu'autrement, on ne va pas non plus se gâcher.
Quelques miasmes
se gâcher des chroniques.
Non, mais ce n'est pas complètement délié. Parce que le fait que tu aies un E3 obligé à se positionner un petit peu par rapport à la future génération.
Que tu y sois ou pas,
de
tu
montrer
prenais...
Là, il n'y a plus cette obligation-là, théoriquement.
Bah là, en fait, même Microsoft...
Les éditeurs peuvent prendre leur temps.
Microsoft a annoncé qu'ils allaient faire un événement digital, entre guillemets, une conférence.
Tu ne sais pas exactement ce que... Ce n'est pas une conférence.
Ce n'est pas une conférence live.
Conférence, tu as quand même une obligation de présenter un truc petit peu consistant.
C'est vrai qu'on critique
là,
beaucoup.
Là, tu ne sais pas ce que tu auras.
Tu vois, on moque le 3 depuis un moment en disant « oui, c'est has-been », mais regarde, l'année dernière, Keanu Reeves sur scène, ça a quand même fait son, tu vois, ça fait son truc, ça fait parler. Les médias en ont parlé.
Oui, enfin, ouais, on parle de Baby Yoda et c'est pas pour ça que... Enfin, bref.
Oui,
ça fait vendre, je pense.
Mais oui, et puis de ça, alors moi le truc c'est que je ne crois absolument pas à l'événementiel numérique. Hein. Je pense que tout va être délié sur plusieurs semaines, qu'il y aura pas de concentration d'annonces pendant l'E3 aurait dû avoir lieu cette semaine. Donc, nous allons faire que parler jeux vidéo.
Oui.
Non, ça n'arrivera pas.
17h-18h. Ouais, voilà, bah non, parce qu'en plus c'était le risque. C'est un exercice de style l'E3. On l'a connu à la génération précédente. Rappelez-vous Xbox One qui dit nous les jeux, il va falloir se connecter une fois par semaine ou par mois. Non, une fois par jour. Et PS4 qui arrive, tiens, je te prête mon jeu. Rappelez-vous de cette séquence qui a fait beaucoup de mal à Microsoft à l'époque. Ça a aussi fait peur, je pense, à ce côté, les conférences qui se suivaient l'une derrière l'autre. Il y avait un côté carambolage qui pouvait faire très mal sur une petite erreur. Tu pouvais le payer pendant une génération entière. Donc
alors,
là, finalement, on va revenir sur quelque
chose. Il n'y avait pas que ça. Hein. Il ne payait pas juste ce petit carambolage-là.
Mais c'est le symbole.
Symboliquement, c'est
le symbole de cette séquence qui a vraiment fait beaucoup de mal.
Donc il ne se passera pas l'E3, il s'est passé des choses, dans les jours qui se sont déroulés, là, cette semaine, là, il s'est passé des choses qui n'ont pas été annulées. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Il s'est passé par exemple la Game Jam d'Arte, qu'on ne nous avons pas annoncé, je crois, la semaine dernière. C'était peut-être une erreur, c'était sans doute une erreur. C'était ce week-end, la Game Jam d'Arte, c'était 10 équipes de 6 personnes qui devaient travailler, évidemment, le principe des Game Jam pendant 48 heures, sur un jeu avec la thématique 7. Pourquoi Arte 7? C'était la 7 avant Arte. Bref, Donc il y a une dizaine de jeux qui sont tous disponibles en version évidemment non finalisée, mais avec pas mal de concepts assez rigolos, beaucoup de multijoueurs cette année. Il y a des jeux qui se jouent à plusieurs sur le même clavier. On peut citer, il y a Erascreen, qui est une sorte de visual novel en enquête, je crois. Mm-hmm. Seven Generations, qui est assez rigolo, il faut superposer des couleurs sans qu'elles se croisent, c'est assez marrant. Il y a le Match Me If You Can, qui est très beau, mais qui se joue à 4, donc j'ai pas pu tester, mais on doit faire se reproduire des lapins en fonction de couleurs à 4 joueurs, c'est assez marrant. Bref,
C'est dispo gratuitement sur le site.
C'est dispo gratuitement, il y a une page itch.io là-dessus, donc vous pouvez aller voir. Autre événement, cette semaine, il y avait le week-end dernier, entre du 6 au 8 mars, c'était à l'occasion de la journée pour le droit des femmes, internationale pour le droit des femmes. Il y a eu un marathon Women in Games sur Twitch. Alors, avec plein de gens qui sont intervenus, c'était super. On l'a, encore une fois, désolé, on ne l'avait pas annoncé avant. Il aurait fallu l'annoncer avant pour le coup, mais j'avoue que je n'ai pas vu passer ça dans mes tablettes. Il y avait plein de choses, plein d'intervenantes et d'intervenants à voir. C'est encore disponible sur Twitch, la vidéo, sauf qu'elle fait 47 heures. Hein, voilà, donc elle n'est pas découpée en séquences.
Si vous êtes confinés, bon.
Si on est confinés dans les jours à venir, vous pouvez re-regarder le marathon Women in Games. Et il s'est passé évidemment aussi, ça a fait l'actualité du jeu vidéo en France cette semaine. Il s'est passé un petit truc qui s'appelle les Pégases.
Ah oui, c'est vrai.
Les Pégases, ouais.
J'adore ton « Ah oui, c'est vrai ». Alors, le fait est qu'autour de cette table et ailleurs, on est assez indifférents à ce genre d'événement. Alors, j'ai été très étonné de plein de gens qui ont trouvé ça important, en fait. Mais ils ont le droit.
Bah après, ça peut permettre à certains jeux français, et je dis certains parce qu'effectivement, pour soumettre sa proposition, les développeurs doivent payer un ticket d'entrée de 240 euros.
C'est quand même
ça, faut en parler,
particulier. Ouais. Hein. C'est le développeur de...
Oui, le développeur de Nightcall, Laurent Victorino, il me semble, en a parlé dans son discours, qui était très bien son discours d'ailleurs.
Qui était justement informatif, c'était intéressant. Ouais.
Justement, moi, ce que je craignais avec les Pégases, c'est que ce soit vraiment une cérémonie, tape dans le dos, vraiment, on s'autocongratule tous entre nous. Ouais, voilà, exactement. Et finalement, j'étais assez agréablement surprise. Donc déjà, il y a eu la présidente de Women in Games qui est intervenue. Il y a aussi eu ce fameux discours de Laurent Victorino qui a pu en placer une pour son éditeur Raw Fury et dire merci de placer le bien-être de vos développeurs avant vos profits, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça fait du bien à entendre, en fait.
Ouais.
Et donc en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certains jeux français dont je n'avais pas entendu parler auparavant. Donc il y a eu le triomphe de Plague Tale qui est tout à fait mérité à mon sens. J'ai pu en tout cas apprendre l'existence de certains jeux français que je connaissais pas.
Bah, pareil.
Après, on peut s'interroger effectivement sur la manière dont est conçu, comment est-ce qu'on devient académicien, comment est-ce qu'on peut soumettre son jeu. Ça, c'est les choses que je trouve questionnables pour l'heure. Mais
ça, et la coexistence avec les Ping Awards aussi. Je sais pas trop comment ça va se passer.
Oui, c'est-à-dire que là, nous avons donc le Pégase qui était l'événement du CEL, donc syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et les Ping Awards qui sont l'événement du syndicat du regroupement des studios, la FJV. Après, moi, j'avoue que oui, j'ai du mal à m'intéresser à ce genre de choses. Je ne trouve aucun intérêt. Après, je ne blâme pas ceux qui s'intéressent à ça. Effectivement, Plague Tale Innocence a tout raflé, d'après ce que j'ai vu. Il y a Night Call qui a gagné je ne sais plus trop quoi, le jeu indé.
Indépendant
français.
Life is Strange a juste eu l'excellence narrative. Ouais. Six nominations.
Il méritait d'autres trucs.
Mais... Ouais.
Et premier jeu vidéo sur un pas fragile. Un jeu étudiant, il y a le jeu indé étranger. Alors ça aussi, c'est très très étrange quand même. Enfin, on a des palmarès comme ça avec les étrangers, les français, et en même temps, c'est très bizarre.
Ce qui était étonnant aussi, c'était les catégories dans lesquelles étaient nominés Dead Cells, je crois. C'était meilleur jeu mobile et meilleur service.
Service.
Ça faisait vraiment récupérer le jeu de l'année précédente et on le recasse quelque part.
C'est ça. Il y a eu Jeanne Rousseau qui a gagné la personnalité de l'année. Yves Guillemot, président d'honneur. Ouais. Enfin, qui a eu le prix d'honneur.
Et Sayonara Wild Hearts.
Ah oui, c'est vrai. Ça, j'étais très contente qu'il gagne le meilleur jeu étranger. Ouais.
Et Simogo, d'ailleurs, qui a cette semaine signé un deal long avec terme Annapurna.
Ah, cool.
Ouais, c'est une excellente nouvelle.
Trop bien, trop bien. Bon, bah voilà, c'est l'occasion d'avoir des bonnes nouvelles de Sayonara Wild. Bon, bref, c'était très bien. Bravo à ceux qui aiment bien ce genre de choses. Après, moi, les cérémonies et les prix, j'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt. Mais,
c'est... Bah, disons que c'est des milieux qui sont... Enfin, ça donne un peu de visibilité aux jeux français. Le seul intérêt de ce genre de truc, c'est de pointer quelques jeux. Basta.
Et puis de mettre un petit sticker en plus sur ta boîte.
Je pense
après,
que ça fait plaisir aux développeurs quand t'es invité sur scène et reconnu pour ton boulot. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je m'en contrefous, mais d'une violence. J'ai pas regardé la cérémonie.
Ouais, moi non plus, j'ai regardé quelques
voilà.
Ouais, et puis il y a toujours cet énorme problème que je vois à chaque fois sur ce genre de choses de la reconnaissance. Le jeu vidéo cherche sa reconnaissance, il veut être reconnu, machin, reconnu par qui, par quoi.
C'est
le côté institutionnalisation.
Pour suivre un peu la même chose dans la bande dessinée, t'as régulièrement ce besoin de reconnaissance institutionnelle ou de...
Ouais,
d'exister vraiment, quoi, d'être un truc à part entière.
Pour Plague Tale, c'est une bonne chose. Je sais pas où en sont les ventes.
En vrai, Plague Tale, est-ce que c'est l'enjeu, il est pas plus mondial que français? Parce que le truc a tellement bien marché. En tout cas, a été tellement bien accueilli que...
Ouais, après, je sais pas si...
Alors, c'est le moment. Allez, on a eu le temps, mais quand même, faut pas. Bref, le com des coms de la semaine dernière. Alors, il y a eu pas mal de réactions, notamment sur les doublages des personnages sur Final Fantasy VII, qu'on a pu découvrir à l'occasion de la démo, notamment ce personnage de Barrett. Donc, pas mal de réactions assez équivalentes à celles qu'on a eues ici. Et quand même, parce que c'est un sujet important, et ces sujets importants, il faut en reparler. On a parlé des jeux de skate. Hein, Marius.
Après
la série jeux de tennis qui nous a fait quand même une bonne partie de 2019, on va parler des jeux de skate où on a dû sortir le fait « Oh, il n'y a plus de jeux de skate, ça n'existe plus !» Évidemment.
Ça existe, mais c'est plus des jeux mainstream comme on peut l'être Tony Hawk.
Et Tony Hawk, Tony Hawk il revient. Et ça, on le savait. On n'avait pas suivi. Donc Tony Hawk revient normalement à la fin de l'année.
Sur Next Gen et compagnie, hein, on peut imaginer.
Je sais pas. Mais quand même, on a une intervention donc de Étienne Mineur, qui nous dit un peu à côté de la thématique de cet épisode, mais Erwan, donc tu as parlé des jeux de skate qui avaient disparu. Donc oui, c'est moi. Donc je me retrouve à la place.
C'est vrai que c'est toi.
Oui, c'est moi. je raconte des conneries quand même. C'est ouf. Il y a actuellement un petit revival des jeux de skate avec Skater XL, Dizzy Day Studios et aussi Session de Creature Studio qui ont tous deux repris la logique de skate. De EA Black Box, on simule le placement des pieds via les deux joysticks de la manette. Les deux jeux qui sont encore en développement sont très ardus et frustrants au début, comme le skate dans la réalité d'ailleurs, mais une fois la logique maîtrisée, le comportement du skate est basé sur un moteur physique, c'est extrêmement plaisant et on cherche la bonne ligne, on essaye les enchaînements de plus en plus ardus et sinon dans les sports de glyph, en arrivant à reproduire de vraies sensations, il y a sur mobile le très étonnant Grand Mountain Adventure, pas du tout basé sur des figures mais sur l'exploration de nouvelles pistes, la découverte de passages improbables et toujours à la recherche de la ligne parfaite. Et effectivement, on apprend dans les forums de Silence on Joue qu'il y a aussi, par exemple, Palmer qui nous rappelle que l'événement de l'E3 dernier, c'était Skatebird. Donc, a priori, c'est avec un smiley, évidemment, à cette phrase-là, mais pour dire qu'il y a peut-être autant de production de skate qu'il y a de production de jeux de tennis. Hein, voilà, non, c'est...
Ouais, mais moi, de mon temps, on jouait à SSX et à Tony Hawk et c'était cool. Ouais. Et maintenant, je...
Dans un autre poste, Étienne dit d'ailleurs que pour la sortie donc de Tony Hawk, donc qui devrait arriver sans doute dans cette année, il espère qu'ils vont reprendre en termes de philosophie le placement des pieds, et parce qu'en fait, mais c'est peu probable. Parce
il
n'y
avait
Tony...
pas eu un accessoire inavouable à une époque,
c'est
genre
pas
skate
un
en plastique. Ça me dit quelque chose.
On n'appelle pas ça la Wii Fit?
Non, je crois qu'il y a eu un truc à vérifier. Je pense qu'Étienne doit bien le savoir, il faudra qu'on en reparle avec Étienne. Il revient nous voir un de ces quatre.
Oui, bien sûr, évidemment. C'est le moment de parler des jeux. Et on va commencer par un jeu qui va sortir, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, mais en avril.
Début avril.
Le 3 avril 2020.
Voilà, le remake du numéro 2 avait quand même fait sensation l'année dernière. début 2019. Ça avait été un des jeux marquants de l'année. C'était évidemment le remake de Resident Evil 2. Et là, c'est Resident Evil 3 Nemesis qui revient. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. This city is completely cut off, isolated. We need help. My men cannot do this alone. The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's unreliable.
It's me he's after. I'll buy you some time.
Hey, wait! Wait, Jill! Resident Evil 3 Nemesis, c'est le tournant. Si je vais peut-être raconter une énormité, mais j'ai l'impression que c'est un peu le tournant jeu d'action un peu de la série. Julie, ça fait déjà quelques temps que tu as pu y jouer. En termes de preview,
Ah, oui.
Ce qu'on appelle en.
Oui, c'est vrai. Je suis allée le voir en février dernier. J'ai eu l'occasion de. J'ai des frissons rien qu'à entendre la voix de Jill Valentine. Mais en fait, j'ai juste joué aux deux premières heures de la campagne solo. Pour resituer un peu, moi j'avais énormément aimé, c'était vraiment un de mes jeux préférés de l'année, le remake du 2. Et je pense que sa réussite était en grande partie due au fait que c'était un vrai remake, de bout en bout. C'était pas un jeu qui reposait uniquement sur la fibre nostalgique. Il y avait vraiment un apport assez considérable, tout en préservant l'essence de l'original, ce qui était largement dû au fait aussi qu'une partie de l'équipe originale travaillait sur le remake. Là, on sait que ce sera le cas aussi. Là, par exemple, le directeur de jeu, Kiyohiko Sakata, était programmeur en chef sur l'original. Il travaille sur la franchise depuis sa création. A priori, on est entre de bonnes mains. Et ce que j'ai pu constater en jouant aux premières heures, déjà, c'est que la recette, la formule qui marchait sur le remake du 2 est appliquée ici à la lettre. On retrouve beaucoup d'éléments qui étaient très agréables dans le 2. Et j'entends par là, par exemple, la carte dynamique qui peut être très, très utile, qui nous permet donc de voir où sont les objets, les salles à explorer. Et ça peut être très, très pratique dans un survival horror. À cela s'ajoute aussi le fait qu'un des trucs qui m'avait plus frustré dans le 2, c'était le fait que le couteau était usable. Là, ce ne sera pas le cas, heureusement. On pouvait aussi l'oublier dans le crâne d'un zombie se retrouver dans la merde pendant tout le reste de la partie. Là, ce ne sera plus le cas. On peut faire toute une partie au couteau, ça a été confirmé. Et... un des grands.
Faire une partie au couteau. Alors
ouais,
ça,
c'est ça. Mais alors, ça, c'est vraiment pour les, les plus téméraires, quoi. T'imagines, quoi.
Ce qui va arriver.
Bien sûr.
Ce qui va arriver, il va y avoir des runs YouTube de parties au couteau.
Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Des petits speedruns de la campagne
zombies,
en 4 heures.
Tuer de zombies aussi.
Ouais, c'est ça. C'est possible en plus parce que du coup, comme tu disais, c'est plus orienté action. Là, on le ressent effectivement. Donc, il y a une possibilité d'esquive.
Qui n'est pas évidente.
Qui n'est pas évidente. Le timing n'est pas facile à trouver, franchement.
Bon, on verra, mais.
Je pense qu'il doit y avoir des créatures plus faciles à esquiver que d'autres.
Il faut prendre le coup. Hein. Là, c'est pas...
Mais là, ouais, non, franchement, moi, c'était plus ridicule qu'autre chose. Je suis très contente que personne
n'ait vu. Je suis pris des
vents. Ok, ça m'assure. Puis c'est censé offrir un petit avantage temporel ensuite, où tu peux. Mais j'ai pas pu en bénéficier vraiment, là, pour l'instant. Et donc, effectivement, il y a ce côté un peu plus action où là, on n'est pas dans un espace confiné comme le commissariat du 2. On est en extérieur dans la ville de Raccoon City, ce qui n'empêche pas, donc on reprend la vue troisième personne à l'épaule.
La mise en place au niveau du scénario, on peut rappeler c'est quoi Resident Evil 3, ça se passe au même moment que Resident Evil 2 à peu près,
c'est ça, ouais.
Oui, c'est
ça.
En termes de temporalité.
Ouais. Oui, d'ailleurs, le 3 était sorti en 99. C'est vrai qu'on a oublié de le rappeler, l'original. Et donc là, on est à peu près à la même période. Niveau scénario, bon, c'est très simple. C'est la ville de Raccoon City est à l'aube d'une infestation, d'une infection zombie, pardon. Et donc Jill Valentine, qui est une membre des forces de police spéciales, les Stars.
Dans le premier, hein. Une figure.
Oui, voilà, une figure emblématique du genre qui a bénéficié d'un redesign que je trouve, à titre personnel, très réussi.
Ouais.
Comme l'était Léon Kennedy et Claire Redfield dans le 2, vraiment.
Réaliste,
trouve,
ouais, c'est ça, chose ouais. D'assez,
avec une texture de cheveux incroyable, ça, il faut le pointer. donc, il fera partie des personnages jouables de ce 3 avec Carlos Oliveira, donc, qui travaille pour la solde d'Umbrella Corp. Je veux dire, niveau scénario, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est pas.
Il y a le même effet, parce que dans le 2, quand même, il y avait cet effet, et qu'on retrouve aussi un peu dans le Final Fantasy VII, c'est-à-dire cette intro... moi ce que j'avais trouvé assez marquant en tout cas dans le 2, c'est que l'intro rappelait des souvenirs tout en impressionnant par la qualité du remake, par le fait d'avoir vraiment bossé, de nous remettre dans l'ambiance.
Ouais.
De 99, de l'époque, de nos souvenirs. On récupère nos souvenirs et en même temps, on joue à un nouveau jeu. En fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est la même chose dans ce 3-là.
Oui, bien sûr. Bah, c'est un exercice de style parfois périlleux, le remake. Hein, parce qu'à la fois, il faut combler les nostalgiques qui connaissent par cœur le jeu original et en même temps, il faut séduire un nouveau public. Et c'est vrai que Capcom avait trouvé une très bonne formule avec le 2 qui est assez, quasiment intouchable. Enfin, je trouve que RE2, tu en as parlé. Alors, pour moi, on est quand même dans un contexte différent sur celui-là, parce que pour moi, Resident Evil 2, il est vraiment révéré par tout le monde. C'est vraiment un pilier, un tournant dans la saga. Par définition, c'est une suite. 98, on était au pic de la PlayStation. 97 ou 98
98, le 2.
Le 2, hein. On est au pic de la PlayStation. C'est un jeu qui a vraiment surfé sur le carton de la première console. Donc le 2, c'était une sorte de bloc. On sait qu'il avait eu un développement un peu compliqué, avec un 1.5 qui avait été annulé, mais qui reste fascinant à étudier. Enfin, le 2, on peut en parler des heures, c'est vraiment un monument de la Logitech de la PlayStation. Donc, quelque part, le remake était une sorte de, pour moi, de célébration de ce pilier de la Logitech de la PlayStation. Resident Evil 3, pour moi, c'est un cas différent parce qu'il arrive tardivement, il arrive en Europe, je crois, tout début 2000, à l'époque où tous les yeux sont braqués sur le Virgin et la sortie de la PS2, notamment. Et en fait, tout le monde, je me rappelle très bien, tout le monde a la tête dans la next-gen qui arrive, il y a la Dreamcast qui est là, hein. Et puis on a ce Resident 3 qui sort et qui, comme tu disais, qui est une sorte de tournant action, et qui, malgré tout, est déjà marqué en termes de techno. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers de la 3D, on va vers de la 3D totale, alors qu'on est encore sur du fond fixe.
Du fond précalculé avec des caméras fixes.
On est sur un jeu de fin de génération, et je pense qu'il n'a pas la même place en termes de nostalgie, à part quelques joueurs fondus de la saga, évidemment, mais auprès du grand public, je pense qu'il n'a pas la même aura que Resident Evil 2. Et je pense que pour Capcom, ça va être un autre défi en termes de communication, de façon de surfer sur les codes d'un jeu qui a vraiment marqué sur le 2, comme FF7 aussi dans un autre domaine, qui sont des jeux vraiment emblématiques. Bah, pour moi, Resident Evil 3, mais moi, je l'ai fait à l'époque, donc début 2000, et j'en ai quelques souvenirs, mais c'est pas un jeu qui m'a marqué autant que le 2, que j'ai refait plusieurs fois sur Nintendo 64, je me suis amusé à faire toutes les versions, et le 3, pas pareil. Peut-être que c'est aussi la prédominance de l'action qui faisait que le jeu était peut-être un peu moins marquant, j'en sais rien. C'est surtout son timing, c'est-à-dire qu'il est arrivé en fin de cycle de la première PlayStation. Donc, pour moi, ce remake, il va aussi servir non plus à faire un peu état de célébrer un titre connu, mais plutôt de relégitimer un titre qui est un peu, pour moi, sorti de la mémoire, qui a été un petit peu pas oublié.
Il n'a pas la même aura, c'est ça.
Voilà, tu vois, il n'a pas la même aura, il est plus vraiment plus pointu, il est plus connu chez les fans.
Ils axent énormément la communication sur le Nemesis, qui est peut-être l'élément le plus marquant.
Ouais, et puis là, c'est vrai qu'il a une ampleur.
C'est quoi le principe? Parce que Nemesis est dans le titre, on a ce Resident Evil 3 Nemesis.
Il est dans le titre du remake, je ne suis pas sûr.
Non, mais je crois que c'est juste Resident Evil 3.
Il était dans le titre original, non? C'était Resident Evil 3 Nemesis.
Oui, dans l'original, ouais.
Et c'est quoi le principe du Nemesis?
Alors, le Nemesis, c'est une arme biologique surpuissante créée par Umbrella Corp. Et donc, en gros, dans le 2, en fait, il y avait Mr. X, enfin Monsieur X, donc, qui était un ennemi vraiment massif qui pouvait te tomber dessus à tout moment, contre lequel tu ne pouvais pas faire grand-chose si ce n'est le ralentir. Là, imagine le Nemesis, c'est la même chose, mais il a un lance-flamme, il peut te choper avec des tentacules et te tirer jusqu'à lui. Enfin, c'est une menace beaucoup plus, beaucoup plus forte en fait que l'était déjà le 2.
Et pareil, il se trimballe un peu partout, tu peux le croiser n'importe quand.
Bah, c'est ça, et justement, on en a parlé rapidement avec Patrick, mais il y a eu, donc c'est Xbox Magazine, il me semble, qui avait annoncé que le Nemesis pourrait faire irruption dans les safe rooms, donc les espaces où tu peux sauvegarder.
Alors là, pause, parce que c'est un des fondamentaux, indéboulonnables de la saga qui vacille.
Ça aurait été très étonnant de voir ça.
Alors voilà, tout ça a été contredit par Capcom. Tout ça sera vérifié manette en main.
Et je trouve ça intéressant. Ils sont revenus dessus en disant non, finalement, on ne peut pas confirmer que ce soit réellement le cas.
Toutes les salles ne seront pas concernées, a priori.
Voilà, c'est ça. Mais en soi, alors moi, je trouve que ce serait vraiment une idée fantastique pour un mode de difficulté plus poussé, par exemple. Mmh. Par exemple, tu sais, on sauvegarde avec les machines à écrire. Il faut des rubans encreurs en mode difficile. On pourrait ajouter cette fonctionnalité parce que moi, en tout cas, il y a un point qui m'est cher. enfin, c'est les points de sauvegarde manuels où la menace est permanente. Enfin, le meilleur exemple que j'ai pour ce cas précis, c'est Alien Isolation. Où, c'est un choix de gameplay qui est très clivant, mais que moi j'ai adoré.
Et tu peux avoir des sauvegardes moisies, je crois. Hein. Tu peux te faire une sauvegarde dans une mauvaise situation, je crois, dans Alien.
Ah oui, oui, bien sûr. Ouais.
Où t'es mort en fait et tu
ouais, sauvegardes. Tu peux te faire tuer en pleine sauvegarde. Non, oui, ou t'es dans une mauvaise position.
Et c'est vrai que jusqu'ici dans les résidents, t'avais pas ça parce que t'avais cette poche de sauvegarde. Exactement. On verra comment dans le jeu final comment ils gèrent ça. Est-ce qu'il y a que quelques salles de concernés? Bon, en tout cas, c'est intéressant qu'ils le remettent en question. En plus, dans cet épisode,
c'est-à-dire en fait tout le débat. Excusez-moi parce que j'ai l'impression qu'on est sur un point quand même que je ne comprends pas.
Y a pas de voilà.
mais juste pour être précis, en fait, tout le débat, c'est que grosso modo, tu peux te retrouver à sauvegarder avec le Némésis dans le dos.
Bah avant,
Et du coup, quand tu reprends ta sauvegarde,
tu peux pas la faire ta sauvegarde. Quoi.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais surtout, normalement, tu rentres.
Ça veut dire que t'as plus d'endroit tranquille,
et voilà,
c'est ça.
Où tu peux souffler.
Et ça, c'est ce qu'on veut. Une menace permanente. Quoi.
Et avoir ces superbes musiques. Les musiques des save rooms dans Resident Evil sont toujours exceptionnelles. Ce sont des endroits de calme où tu peux te poser. Et là, c'est là où on rejoint vraiment l'ADN jeu d'aventure aussi de ces titres-là. Et là, du coup, s'il y a rupture, ça, on verra ce que ça donne au final. Mais c'est vrai qu'on reste quand même sur un jeu très action, le 3, qui d'après ce que j'ai pu voir, il était à la base un spin-off, il devait être un spin-off dans la saga Resident, et puis l'arrivée de la PS2 a fait que chez Capcom ils ont repensé, ils en ont fait un 3 canonique, donc voilà, c'est un projet qui était vraiment orienté action par définition, c'était une sorte de spin-off à la base qui a été retravaillé en 3 canonique à l'époque.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces deux heures, dans ces deux premières heures de jeu, c'est quoi le truc qui... C'est un truc ouf ou pas d'ailleurs, c'est juste peut-être la qualité.
Justement, enfin, c'est la rencontre avec le Némésis. En fait, j'avais peur que l'effet d'annonce estompe un peu ma crainte quand j'ai croisé, mais non, c'est vraiment c'est humiliant en fait d'être face à lui, quoi. Et en même temps, ça te donne une espèce de rage. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et en l'espace de deux heures, on a quand même eu l'occasion de voir un bestiaire assez étendu. Donc il y a aussi des créatures, donc les Hunter Gamma, des espèces de créatures amphibies qui peuvent engloutir, mais vraiment. Comme un bonbon, enfin c'est vraiment minuscule et tout.
C'est pas reluisant. Hein.
Et alors moi ça m'intéresse parce que dans le 2, ce que je trouvais intéressant, c'était les manières qu'avaient donc les différentes créatures d'interagir entre elles. Monsieur X pouvait par exemple défoncer des zombies s'il en ressentait l'envie, et tu pouvais te retrouver coincé entre des liqueurs, donc auprès desquels il ne faut pas faire de bruit, et Monsieur X contre lequel tu ne peux que fuir. Donc du coup c'était vraiment comme se retrouver dans une pièce avec un raptor et un T-Rex en fait. Enfin c'est une sensation qui était pour moi inédite, et j'espère, en tout cas je trouve ça assez encourageant quand on voit le bestiaire étoffé du 3, ça peut donner lieu à pas mal de situations intéressantes, je pense.
Ouais, donc le Némésis peut se faire gloutonner par les nouvelles bestiaires.
Je crois que le Némésis
il bat tout le monde, malheureusement. Il est en haut de la chaîne alimentaire.
C'est plus pour les autres qu'on peut s'inquiéter.
Mais
en fait,
pour les autres, ça peut être intéressant. Ouais.
Ouais, c'est clair. Non, ce qui ressort pour moi, c'est une tension. C'est vrai que dans la partie, tu transpires avec la manette en main, mais parce que tu as cette présence que tu sens tout le temps au moindre détour d'un couloir, tu sens qu'il va débouler. Alors, moi, ce qui m'a marqué, il y a ça évidemment, cette tension qui est tout le temps présente. L'action qui est plus prédominante. Moi, ce qui m'a tapé dans l'œil vraiment, c'est le côté un peu clinquant de la ville. On ressent Raccoon City avec des néons, il y a un côté flashy, tu rentres dans pas mal de magasins, donc tu ressens mieux la ville, ce qu'elle a pu être avant. T'as un petit côté presque Dead Rising, tu vois, dans les boutiques dans lesquelles tu rentres, etc. Et puis moi, un truc qui m'a plu, et ça on redéveloppera plus en détail quand on aura pu jouer à la version finale, c'est toutes ces petites narrations environnementales, ces petites... pas des quêtes, mais toutes ces petites histoires qui sont racontées par, un personnage, un zombie dont tu vas en apprendre un peu plus en lisant des choses, ou tu vois, t'as plein de petites histoires racontées dans la grande histoire, tu vois. Et ça, je trouve que moi, ce que j'ai vu là, ça me fait vraiment envie. Je trouve que chaque boutique, tu sens qu'il y a une histoire derrière une porte. Et c'est, en général, ce sont plutôt des histoires assez tristes parce que c'est quand même une invasion zombie. C'est tellement d'actualité. C'est ce qui m'a marqué, c'est cette ville où t'as vraiment envie de rentrer dans chaque boutique, dans chaque lieu pour en savoir plus.
Bon, vous êtes tous les deux un peu défendus de survival horror. Pour le coup, vous avez l'air plutôt, en utilisant un mot à la mode, hypé.
Je suis rentré de la démo, j'ai réinstallé le 2 direct. J'ai réinstallé le 2 pour me remettre dedans. Tellement j'étais chaud bouillant, quoi. Voilà,
d'accord, ok.
Il réplique une formule qui a marché, il n'y aura peut-être pas d'innovation, mais en tout cas, c'est super. Enfin, je veux dire.
Mais tu parlais d'un multi quand même.
Le multi, il faut en parler parce que j'ai passé un peu de temps aussi dessus. Mais le multi, on va revenir brièvement dessus. Hein. C'est donc un jeu en mode asymétrique, donc à la manière d'Evolve, Dead by Daylight ou Friday the 13th, par exemple, où tu incarnes un mastermind, donc un personnage plus ou moins emblématique de la franchise, contre 4 survivants. qui incarnent tous un peu des tropes des films d'horreur, par exemple. Mm. Je sais pas, moi, la jeune adolescente rebelle, experte en armes à feu, la hackeuse gothique, enfin bref. Mm.
C'est la cabine dans les
bois. Oh, voilà.
La hackeuse gothique.
Ouais, c'est ça, ouais. La cabine dans les
bois. Ah, je vois que...
Et donc, en gros, ouais, donc les quatre survivants doivent s'échapper pendant que le mastermind peut leur mettre des bâtons dans les roues, en leur envoyant des zombies, en mettant des pièges à loups, en coupant l'électricité. En fait, il peut voir leurs faits et gestes à travers des caméras de surveillance. Il peut naviguer d'une caméra à l'autre. Le souci, pour l'instant, enfin, Capcom a insisté sur le fait que c'était encore en cours d'équilibrage, c'est que pour l'instant, le mastermind roule sur les survivants. C'est un des sens facilité quand t'es le mastermind. Et le survivant, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as une contrainte de temps. En fait, tu dois passer d'une pièce à une autre et t'as un temps limité à chaque fois. Et quand on t'envoie 5 zombies dans la gueule et des créatures type Mr. X, parce qu'on peut t'envoyer Mr. X, t'es là, c'est un peu compliqué. Donc, à voir, mais après, c'est pas les raisons qui font que je joue à Resident Evil. Enfin, c'est rarement le multi, donc...
Mais c'est, qui sait, un multi réussi, ça pourrait être
ça.
Rigolo.
J'attends que ça, ouais, de voir
c'est
un mode...
compliqué, c'est vrai que ça avait réussi, été annoncé à la base comme un standalone, ce jeu, si je me trompe pas. Enfin, il y avait eu des annonces de...
Ah, alors ça, je me souviens même pas, tu vois.
Bon, après, on verra. En tout cas, c'est pas le cœur de la proposition. En tout cas, non. Puis moi perso, Resident et multi, ça l'a jamais fait. J'ai jamais été.
On en reparlera. On en reparlera dans un mois à peu près, début avril. C'est le moment d'accueillir. Oui, c'est ça. Oui.
Je compte.
Je vois. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique jeux de société. Salut, Jérémy.
Salut Erwan, cette semaine on ne va pas parler d'un jeu, ni de deux jeux, mais de trois jeux, qui font toutes trois parties de la même gamme de jeux, les minigames de chez l'éditeur français Yellow. Alors pourquoi parler d'une gamme ? Bah déjà parce qu'il n'y a pas assez de silence en joue dans l'année pour parler de tous les bons jeux qui sortent, et ces trois jeux sont excellents. Et ensuite parce que ces petites boîtes, 10 par 15 et 4 cm de profondeur, contiennent toutes de vrais jeux avec du matériel de qualité. Pour environ 12€, on va trouver parfois des jetons en bois ou des plateaux de jeux, des dés, etc. Vraiment, c'est très diversifié. Commençons par High Risk, qui vient de sortir, un jeu pour 2 à 4 joueurs. On y incarne des alpinistes, on va jeter 6 dés. Sur chacun d'entre eux, on va trouver des faces montagnes, nuages ou éclairs. À chaque lancée, on mettra les montagnes qui vous permettront de progresser d'une case et les nuages qui vous font juste admirer le paysage de côté. Et c'est une mécanique de stop ou encore, si après un lancer, tous les dés indiquent des éclairs, alors on dégringole. Notre alpiniste placé le plus haut va tomber derrière celui qui est placé en seconde position dans la cordée. Les auteurs Trevor Benjamin et Brett Gilbert. C'est un jeu qui fonctionne très bien même à deux joueurs et avec les tout petits enfants. Le deuxième jeu de la gamme dont j'aimerais vous parler, c'est Ninja Academy de la team Kaidema. Et là, la boîte est bourrée de matériel, il y a des grandes cartes, il y a des meeples blancs et noirs représentant des ninjas, il y a des petits objets, des poutres, des cubes, et surtout le fond de la boîte représente un dojo. C'est hyper sympa. De 3 à 5 joueurs, on va passer plein d'épreuves. Chaque carte va représenter un défi différent, donc des mini-jeux. On va devoir faire l'équilibriste avec les personnages, on va devoir bluffer, on va faire des pichenettes, enfin plein de trucs. Et c'est recommandé à partir de 8 ans pour toute la famille. Ces deux premiers jeux sont récents, mais là je vais vous parler d'un jeu plus classique, un ancien de la gamme, Time Bomb. Enfin, il y a Time Bomb et l'évolution qui est sorti en février, mais je ne trouve pas ça justifié de racheter le nouveau si on a déjà l'ancien, à part si on est un vrai fan. Le jeu a d'abord été édité au Japon en 2014, puis par les Américains de Indie Board and Card sous le nom de Don't Mess with Cthulhu, et enfin par les Allemands de Schmidt sous le nom de Temple de Schrecken. J'ai joué à toutes les versions et je trouve que Time Bomb, c'est la meilleure. Il s'agit d'un jeu de bluff à identité cachée. On va jouer les membres de l'équipe de Sherlock. Enfin, il y a peut-être un ou plusieurs traîtres qui se cachent parmi nous. On distribue toutes les cartes, les joueurs les vérifient et ensuite les posent devant eux. Certaines cartes permettent de démorcer la bombe. On devra donc convaincre les autres pour leur expliquer combien de cartes on a de démorçage parmi celles qui sont posées devant soi. Ou alors dire n'importe quoi ou mentir si on est dans la bande de Moriarty. De 4 à 8 joueurs, les parties durent environ un quart d'heure. C'est une tuerie, tout le monde se doit d'avoir une copie de Time Bomb à la maison. Je rappelle les noms des trois jeux, High Risk, Ninja Academy et Time Bomb. Et voilà, et un conseil, laissez toujours un ou deux jeux exposés dans votre salon. Vous verrez que ça donne envie aux gens et que les opportunités sont nombreuses de remplacer un écran de téléphone ou des conversations foireuses par une partie de jeu de plateau. Bye bye.
Très bon conseil, Jérémy. C'est vrai, hein, avoir des boîtes de jeux de société toujours en vue à la maison. Alors, c'est le moment. Ah bah oui, il faut. Bah, c'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler de ce jeu qui commence par un écran de chargement qui est très
incroyable.
Qui est incroyable. L'écran de chargement est juste inscrit. Patientez. Le jeu, c'est The Longing. Vous êtes toujours là ? Non, mais parce qu'il faut un son un peu plus long que d'habitude. Non, mais on pouvait.
Vas-y,
voilà.
Vas-y.
C'est voilà, The Longing. Alors, il y a un truc très bizarre, c'est que je ne l'ai pas vu venir. Je ne sais pas vous, mais moi, il est arrivé dans les recommandations. Même pour moi, je l'ai vu passer la première fois. Il était en tendance Steam.
Oui,
c'est-à-dire les nouveaux arrivés, l'onglet tendance que je regarde très régulièrement. Et je vois ce machin, je vois le design assez incroyable dessiné, voilà, enfin, du truc. Je me suis dit, tiens. Je regarde ce que c'est. Et puis après, ça a commencé à bruisser à droite, à gauche. De ce jeu réalisé par Anselm Pita, qui est la cofondatrice du studio, d'un studio allemand à Stuttgart, qui s'appelle le studio Suffs.
Qui a été créé pour le jeu.
Non, ils ont fait un jeu avant, je crois.
Ah bah, elle disait moi j'ai vu une interview où elle disait que le studio a genre 2-3 ans.
D'accord.
Et que le développement de celui-là lui a pris genre 5-6 ans.
6 ans.
Ouais. D'accord. Ouais, donc, et c'est vraiment, là pour le coup, c'est un projet personnel aussi.
Ouais, ouais.
C'est une vision. Et on comprend très vite que ça ne peut être qu'une vision, ce jeu. Enfin, il y a quelqu'un c'est une personne qui a pensé à ça et qui s'est dit, tiens, si je faisais un jeu qui durerait 400 jours. Alors, je commence vers toi, Marius, parce que tu as peut-être une relation problématique avec, avec
ouais,
The Longing.
C'est pas très sympa de commencer avec moi. Non, sur le papier, je trouve que le jeu est hyper excitant. Il y a cette idée de faire un truc qui ne t'explique pas grand-chose, qui commence par tu parlais du chargement où il y a marqué patienter, qui en fait est la définition du jeu, parce que c'est ça qu'on devra faire. On a 400 jours avant qu'un roi qui vit dans une caverne avec nous ne se réveille, et il va falloir occuper ces 400 jours et on sait franchement pas quoi foutre. On a une petite table, on a un bout de charbon, ou je sais même pas si on en a au début.
Si on en a,
si on
un.
En a
un, ouais.
Et un bout de papier.
Un bout de papier, on peut dessiner, on peut lire des livres puisqu'on a une petite bibliothèque, une petite chaise. Les livres qu'on peut lire sont des vrais livres. Il y a Moby Dick, il y a Ainsi parlait Zarathoustra, qui sont en texte intégral en anglais. Mais on peut vraiment se poser et lire Moby Dick en entier, et ça fera progresser le jeu.
Là, mon nom...
Oui,
mon
on
nom...
gagne 1400 minutes avec Moby Dick, quoi. Voilà. Une minute par page.
Et voilà, l'idée du jeu, c'était de renverser un petit peu le concept de l'attente, qui était vu comme une nuisance dans les idle games, et d'en faire un outil d'empathie. C'est ça qu'elle explique dans ses interviews. Et je trouve que l'idée est formidable, que sur le papier, ça marche bien quelques minutes. Mais moi, ça me dévore d'angoisse de me retrouver dans ces cavernes infinies. Parce que tout se déroule lentement. Tout se déroule en temps réel. Le personnage ne courra jamais.
Non, bien sûr.
Petit truc, il faut appuyer sur la barre espace et cliquer vers une direction pour s'éviter de rester appuyé. mais c'est long, tout est très très long, et quand on passe 5 minutes à enchaîner 3 couloirs pour arriver sur un cul-de-sac, ben ça fout les boules. Et moi, j'arrive pas à dépasser ce truc-là de faire des sessions d'un quart d'heure et de péter les plombs, d'asphyxier, quoi.
Moi, il faut quand même parler de ce premier contact avec The Longing, parce que moi, en tout cas, pour ma part, ça a été un contact assez incrédule. Le contact assez incrédule, c'est qu'on se retrouve, effectivement, on comprend qu'on est très, très profond sous terre, dans une caverne, où un roi magique, un peu, enfin, je crois que c'est issu de la légende de Barberousse, une légende allemande, du roi enfoui sous une montagne. Le roi est fatigué, et pour retrouver ses pouvoirs, et ben il doit s'endormir pendant 400 jours, et donc on est dans sa main comme ça, c'est un roi géant, et on joue une petite ombre, qui est donc ce petit personnage aux yeux jaunes, en fait son seul travail,
c'est un golem sympathique,
dont le regard, je crois, le regard suit la souris, le curseur. C'est un point qui m'a tout de suite choqué en regardant des images du jeu, c'est que c'est rarement fait dans un point and click.
Très humain.
Il
parle très bien. Enfin, les textes, tous les textes qui apparaissent sont extrêmement bien écrits et très touchants.
Beaucoup de ruminations existentialistes.
Je trouve que le côté empathie marche très bien. Et moi, ça m'asphyxie parce qu'aussi le jeu est très beau. Enfin, il y a un minimalisme qui est en même temps très bien servi par une espèce de dessin. Moi, ça m'a fait penser aux bandes dessinées de Juliac Forer, qui est une artiste un peu dure, mais là, ça marche très très bien. C'est majestueux quand ça peut l'être
et plus contenu.
Et voilà, après, t'as aussi un travail sur la lumière qui est très très bête, très discret, mais plus tu t'enfonces dans les trucs, moins t'as de lumière des fois, et
Il y a une austérité qui sort de tout, enfin visuel parfois, dans l'interface, dans le gameplay. C'est un exercice de style. Je l'ai pas fait, hein, mais à vous entendre, c'est une sorte d'exercice
mais
de style en fait.
Surtout
parce qu'on parle de 400 jours véridiques, c'est ça, authentique.
Oui, mais pas tout à fait.
L'incrédulité, c'est que une fois que le roi s'est endormi, on prend le contrôle de cette ombre. On arrive dans son petit chez-soi, où il y a un fauteuil, un petit bureau, une petite bibliothèque à moitié vide, et puis il y a une cheminée où il n'y a rien qui brûle. Et là, le compteur se met en marche. Et moi, c'est ce moment-là, alors qu'on va un peu, peut-être un peu gâcher pour les joueurs, mais je pense que c'est plus important de connaître ce jeu.
Oui.
Et d'avoir la surprise un peu gâchée que de ne jamais connaître ce jeu.
Ah, mais c'est sûr que quand tu réalises que le compteur qui est en haut correspond à un nombre de jeux. Enfin,
le compteur commence 399 jours. 23h59 minutes.
Avec 59 des vraies secondes.
Qui est l'URL du jeu? Je ne sais pas si vous l'avez vu, l'URL du jeu, c'est 23h59.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Enfin, 399 jours, 23h59 minutes, 59 secondes.com. C'est l'URL du jeu The Longing. Qu'est-ce que c'est ? Toi, tu as compris. J'ai eu vraiment un moment de quoi ? What ?
Ah, bah alors moi justement, j'ai une introduction différente au jeu dans le sens où on me l'avait recommandé en fait en me parlant très brièvement du concept. Donc je savais à peu près dans quoi je mettais les pieds, mais ça n'empêche pas que tu as quand même un élément de... C'est tellement une proposition qui va à rebours de tout ce qui se fait dans le jeu vidéo où seule la patience est récompensée. Et il faut dire que les récompenses, ça ressemble à des bouts de charbon, des bouts de papier. C'est un peu aride de prime abord.
Un lapis lazuli.
Un lapis lazuli, mais c'est génial, ça permet de faire des feux bleus. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que le jeu... réapprend à s'émouvoir de petites choses. Enfin, genre ce personnage de l'ombre, c'est important que tu parles d'empathie parce que c'est vrai que ce que Anselm Pita avait dit à ce sujet, c'est que par rapport à la légende du roi, donc qui est toujours racontée, enfin genre en glorifiant le roi, etc. Ça vient d'un poème de, je l'ai noté, Friedrich Rückert. Où en gros, l'histoire, en fait, c'est un nain qui doit observer l'extérieur d'une grotte tous les 100 ans pour voir si le roi peut en sortir. Et l'idée, c'est ouais, donc de développer de l'empathie pour ce nain, de raconter l'histoire de ce point de vue. Et donc là, le nain devient ombre. Et c'est vrai qu'on s'y attache. Enfin, moi, je trouve... Alors, au début, bien sûr, c'est très agaçant. Enfin, je veux dire, il marche très, très lentement. mais c'en est presque comique dans le sens où on arrive très vite face à une porte qui met... mais une éternité à s'ouvrir. Enfin, c'est vraiment...
Alors attends, il y en a plusieurs.
Il y a des portes qui mettent 2 heures. La première, elle met plusieurs minutes, je crois. Ouais. Le moment où il y a un espace suffisant pour que l'ombre puisse y glisser, elle dit non, je vais attendre, parce qu'on la comprend aussi.
Ce serait gâché,
ce serait un blasphème, en fait. Bah, c'est normal, elle a 400 jours à attendre, elle va pas,
pourquoi courir? On a 400 jours.
Exactement, c'est ça.
Elle le dit, hein, c'est un moment, parce que ton premier réflexe de joueur un peu débile, c'est de double-cliquer pour courir, ou d'appuyer sur Shift, ou d'appuyer sur quelque chose pour aller plus vite, pour monter cet escalier un peu rapidement. Et ben non.
Et en fait, on développe une sorte d'attachement et de bienveillance envers cette ombre, en fait. Enfin, vraiment, moi, je la trouve assez touchante dans sa manière d'accueillir tout ce qu'elle croise, hein, que ce soit des araignées ou des bouquins, comme des vieux amis. Enfin, c'est toujours une opportunité d'étoffer.
Des araignées.
Oui, il y a des araignées qui font des toiles. Enfin,
non, mais
bref, je vais pas trop en dévoiler.
T'as pas d'ennemis, si tu veux.
D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est clair que.
Ah oui, on n'est pas dans la vulgarité de jeux vidéo classique avec.
Le danger, c'est juste. Péter un plomb,
c'est
quoi.
Le temps, en fait.
Et ben, alors justement, le fait que le jeu continue à tourner, en fait, quand il n'est pas ouvert, enfin, je veux dire, le temps continue à passer, en fait, si tu l'ouvres 2 jours plus tard, 2 jours seront passés. J'aime, en fait, beaucoup l'idée qu'on puisse consommer ce jeu d'une manière radicalement différente selon les joueurs. C'est que tu peux très bien l'installer et revenir 400 jours plus tard et réveiller le roi, hein, c'est tout à fait possible. Pas sûr que ce soit le plus intéressant, mais il y a plusieurs approches possibles, plusieurs fins possibles, apparemment. Et au final, en fait, on apprend à occuper son temps et à se rendre compte que t'as envie, en fait, de rendre le quotidien de l'ombre et son attente, enfin son désespoir, moins plombant, quoi. Et t'y prends plaisir, en fait, mais ça met un peu de temps, je trouve, à s'installer. C'est vraiment là, j'ai dû passer une quinzaine d'heures en le laissant en fond.
En même temps, tout met du temps.
Et donc,
ça met du temps à s'installer et l'attachement au personnage, au jeu, effectivement, met du temps à s'installer, mais finalement, c'est le principe même du truc. Alors, les références, pour ceux qui connaissent, tu as évoqué le mot Marius, mais c'est les Idle Games, donc ces jeux, les cookie clickers, Clicker Heroes et tout ce genre de choses, où le jeu avance même quand tu n'es pas dessus, en fait, c'est basé sur le temps
qui
passe.
Avec ce twist, elle ajoute une fin.
Oui, alors voilà. Elle ajoute une fin très lointaine, donc à 400 jours. C'est-à-dire que quelqu'un qui lance le jeu en ce moment, c'est la fin, c'est 2021.
Personne ne l'a fini. En fait,
si, j'ai vu quelques personnes qui disaient l'avoir fini. Ouais, il y a des possibilités de speedrunner le jeu, serait-ce qu'en.
T'accélères le temps, en fait, c'est ça?
Bah, alors en fait, je vais essayer de pas trop en révéler, mais t'as plusieurs mécanismes qui te permettent de rendre ton chez-toi plus agréable et d'accélérer le temps. Ça peut être accrocher des œuvres d'art que t'as toi-même dessinées.
Voilà, c'est important.
Lire en cliquant sur les pages.
Ah, tu joues sur l'épaisseur du temps, en fait.
T'as des possibilités.
C'est des possibilités. C'est toujours, par exemple, moi, je sais que en ce moment, mon ombre est en train de finir Moby Dick. J'ai mis en lecture automatique. Alors que je vous parle, alors j'ai allumé un feu hier soir. Je pense qu'il s'est allumé, il s'est éteint depuis.
Ouais.
Mais j'ai bien décoré son petit lieu.
Est-ce que tu l'as lu, toi, Moby Dick? T'aurais pu en profiter pour le lire avec
lui. Il est en anglais, c'est un peu... j'ai relu les premières pages, parce que c'est des pages quand même très connues. Je ne me rappelle plus ce que ça donne en anglais, mais elle est en train de lire. Et là, effectivement, tu as une possibilité comme ça, où le temps... Comme dans la vraie vie, finalement, le temps,
exactement,
il passe plus vite quand t'es en train de lire un bon livre ou ce genre de choses. Mais finalement, en fait, ce qui est très intéressant, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est qu'il y a un tel attachement à ce personnage, à cette manière d'être au jeu, finalement, que moi, j'étais limite à applaudir quand mon ombre, elle a grimpé
Mais
sur
oui.
un mur.
Il faut dire que l'animation est adorable.
L'animation est géniale, mais tu es tellement habitué. Elle marche lentement et tout ça. Alors, quand il y a la corniche est trop haute, elle dit « je peux pas ».
Oui, c'est ça. Il va falloir que j'attende.
Et là, tu vois, à un moment dans ton exploration, tu vois une corniche pas trop haute. Alors, tu dis « waouh, peut-être que... » Et là, tu cliques et hop.
Tu peux aussi pousser un rocher pour...
Et à un moment, tu pousses un rocher. Et tu as des moments comme ça qui sont disséminés à des endroits très, très éloignés comme ça. Tu as vraiment des moments, j'allais dire, d'action. Mais oui, c'est de l'action.
Oui, il y en a.
Qui est de l'action peut-être au ralenti ou des fois, il faut attendre à certains endroits. Il y a des moments absolument magiques où il faut attendre pour déclencher quelque chose. Il va falloir attendre que de la mousse pousse, peut-être quelques semaines, que la mousse pousse pour pouvoir sauter du haut d'une corniche.
Oui.
Et tout ce jeu comme ça, sur le temps, sur des temporalités qui sont totalement extérieures aux jeux vidéo. Mais on n'est pas dans des temporalités façon cookie clicker où pour avoir 8 milliards de milliards de milliards de cookies, il va falloir attendre de faire une usine intergalactique, etc. On est vraiment dans... Là, c'est juste que pour continuer l'exploration, il faut attendre. Et le temps comme ça est une monnaie du jeu. Moi, je suis éberlué.
Va m'accompagner toute l'année, c'est sûr. Enfin, ce jeu, quoi.
Tu te rappelles pas Little Computer People? Toi qui as eu un Commodore 64, t'as pas connu ça, Little Computer People, où tu avais comme ça une maison qu'un personnage qu'il fallait empêcher de s'ennuyer.
C'est
drôle, c'est que ça, quand vous m'en parlez, ça m'y fait beaucoup penser. En fait, on voyait une maison en tranches comme ça, et il fallait l'occuper. En fait, tu mettais une télé. Mais ça date des années 85-86.
Là, c'est moins. Il faut.
On est moins dans la performance de trouver des astuces. Quand on est plus dans le ressenti du temps.
Il y a une exploration réelle, une exploration dans l'imaginaire. Je trouve vraiment.
Aujourd'hui, on te mettrait dans les années 80, t'aurais mis un sticker, un jeu en 4D avec le temps, la prise en compte du temps.
C'est ça.
Ouais.
Ça se fait plus trop maintenant.
Un truc par rapport à l'immensité de la caverne, c'est vrai que c'est le premier truc qui frappe au début, c'est que tout est tellement lent que tout paraît immense. Et en fait, tu te rends compte au bout de plusieurs heures de jeu qu'en fait, c'est pas si grand que ça. En fait, t'as notamment un endroit où tu peux voir l'étendue de la caverne avec un travelling arrière incroyable. Et tu te rends compte que c'est pas si immense
que ça.
Pas
désespéré,
en fait.
Tu veux dire.
Ouais, c'est ça. Surtout que t'as moyen en fait de sauvegarder des endroits clés dans le jeu et d'y retourner. Tu peux aussi le début pour explorer. Ce qui est bien, c'est que tu peux mettre ton personnage en marche aléatoire et juste te faire un petit thé et le regarder en train de marcher avec son pack.
Mais c'est ça. On est limite face à un fond d'écran. Enfin, c'est à certains moments, c'est Tu mets l'ombre en marche aléatoire et tu la laisses se promener, c'est exceptionnel.
Il y a des mécaniques qui sont très bien trouvées, vraiment. C'est
fascinant, c'est fascinant. Après, il faut bien savoir où on met les pieds. Je pense que c'est un usage du jeu vidéo, un accès au jeu vidéo, à la performance de jeu vidéo qui est quand même très particulière. Mais c'est fascinant comme l'aspect expérimental, entre guillemets, du rapport au temps, au personnage, à l'ennui. Est-ce qu'il y a l'ennui? On parlait de l'ennui il y a pas longtemps.
On peut l'approcher de Death Stranding par rapport à la radicalité de l'approche.
C'est le jeu qui touche le plus profondément en frontal, à l'ennui que j'ai vu. Quoi.
Ouais. Ah, oui, oui.
Ça me déçoit presque un peu que j'aime pas ça. Je veux dire que d'un point de vue théorique, j'aime beaucoup le jeu. C'est très stimulant. Mais je me fais tellement chier devant que je
n'y arrive
pas. Ça m'angoisse, quoi. Et je... Ouais. Ça me déçoit presque de moi.
Je trouve que tu relances dans une semaine.
De ne pas tenir par rapport à ça.
Tu le relances dans une semaine, tu vois que la mousse a poussé, qu'il y a plein de choses à faire, peut-être tu auras envie de lui redonner une chance. Ouais. Je sais pas.
C'est ça qu'aujourd'hui, enfin, on est habitué à tout. À ce
franchement,
que
tu trouves, je sais pas, tu trouves ta première pioche, c'est.
Ah ouais, c'est un moment.
C'est un moment, mais c'est un moment.
Mais attends, mais la pioche, je l'ai vue, j'ai pas pu descendre.
Eh bien, justement, bon, bah, je te dirai après.
Peut-être qu'il suffit d'attendre. C'est indice.
Ouais,
indice.
Attends, ça va bien.
Indice,
ça.
Indice. Hey, je t'ai donné l'indice du jeu.
C'est clair.
Je t'ai donné l'indice du jeu. La pioche, il suffit d'attendre.
Ça a l'air quand même.
Et là, tu réfléchis, tu retournes sur les lieux, tu réfléchis et tu avances.
Ça a l'air quand même assez chronophage quand vous en parlez comme ça. C'est pas.
On te parle d'un jeu qui dure 400 jours et toi t'as remarqué.
Non, mais je parle même du gameplay.
Le
gameplay,
c'est
que tu peux pas jouer 3 minutes et arrêter. Enfin, il faut s'investir dedans.
C'est un jeu avec une faible rejouabilité aussi.
800 jours.
Non, mais c'est ça, t'imagines.
Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, sur le côté.
Ouais. Alors, c'est une expérience.
Je ne jouerai pas, je ne finirai pas le jeu. Enfin, peut-être que j'y retournerai dans 400 jours pour la blague, mais s'il arrivait un truc, t'imagines, s'il peut arriver un truc à ce personnage-là. Au bout de 256 jours, t'imagines la puissance du drame que ça va représenter.
Bien sûr.
Moindre événement qui lui arrive.
C'est une partie de Sims qui
acquiert
part
une importance complètement folle.
Oui,
ça, c'est exactement ça quand je parle de la pioche, moi qui m'est arrivé au bout de 4 jours de jeu, ou 5 jours, je ne sais plus, parce que je n'y suis pas allé régulièrement et tout ça. Mais l'événement, en termes d'événement de jeu, j'ai rarement ressenti ça quand même.
Ah ouais.
C'est un jeu qui va se raconter en fait.
Je suis d'accord avec toi.
Mais non, mais c'est vrai. Parce que t'as...
Non, surtout qu'on a tous des petits émois différents. Moi, par exemple, là, je viens de faire pousser un champignon. Enfin, c'est
wow,
le plus beau jour de ma vie.
Je suis trop jaloux. Bref, The Longing, vous devez au moins regarder à quoi ça ressemble.
C'est vraiment.
Et on vous a pas parlé du Hall de l'éternité.
Ouais, le Hall de l'éternité.
Et ça, c'est. Voilà. Bref, The Longing. On en reparlera évidemment.
Donc,
sans doute.
Chaque semaine.
En 2021. et on va terminer sur un jeu. Alors c'est peut-être l'antithèse en termes de rythme, en termes de. je pense que là, on ne peut pas marcher, ou alors il faut vraiment le vouloir pour marcher. Ça s'appelle Blood Roots. Alors vous voyez l'ambiance, on est avec Monsieur Wolf, Mr. Wolf, Monsieur Loup, qui a été trahi, qui a été laissé pour mort et qui revient se venger. Et voilà, on est bien au niveau de la mise en place scénaristique.
Ah, c'est pas compliqué, oui.
Ouais.
Et il suffit pour expliquer le jeu, il suffit de résumer à quelques mots. C'est Hotline Miami en version cartoon avec une musique western.
Ouais.
Country western.
C'est
gros.
Ça.
Ouais, puis des petits trucs en plus quand même.
Et avec quelques petits trucs en plus.
Petits gimmicks en plus.
Qui changent beaucoup de choses.
Bah ouais.
Blood Roots, donc c'est un studio canadien Paper Cult, un studio de Montréal.
Ouais.
Et qui propose, voilà, c'est une sorte de. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est le lien avec Hotline Miami semble quasi évident dès le départ.
La rythmique.
Oui, c'est des niveaux assez courts qu'il faut Frénétique. Connaître par cœur pour réussir à passer.
Moins par cœur que Hotline.
Il y a des trucs, franchement.
Parfois, certains passages, mais on n'est pas dans le par cœur. Moi, je trouve ça un poil moins technique que Hotline Miami, où vraiment on est sur du pixel près. Là, on a un côté un peu plus bourrin.
Il y a un côté plus bordélique et plus
foufou,
parce qu'on a, contrairement à Hotline Miami, où on avait en gros quelques armes disposées par-ci, par-là, et par lesquelles il fallait passer. Avec quelques petits détails, si on utilisait une porte ou machin. Là, il y a un arsenal à disposition qui est complètement loufoque, qui fait une partie du plaisir du jeu, puisqu'on passe de la hache à l'épée qui va permettre d'accélérer un petit peu, mais aussi on peut jeter des têtes de poisson sur les mecs, des barils.
Tu tues des mecs à la carotte ?
Ouais, à la carotte,
au flamant rose.
Ouais.
C'est quand même pas dans tous les jeux que c'est permis,
pour le coup,
ce genre
c'est
de choses.
C'est assez marrant.
Donc, mise en place, ce monsieur loup bute tout le monde.
Oui,
en fait, il se venge.
Ouais, tu te venges, tu dois retrouver les membres du gang qui t'ont nui.
Donc ça marche comment ?
Bah, ça marche comment ? C'est des suites de niveaux qui s'enchaînent avec des actes, et à la fin de chaque grand acte, t'as un boss particulièrement pénible. Moi, je n'ai pas encore réussi à battre
ouais,
le premier
pas
boss.
C'est un point fort, ouais, clairement.
Et les niveaux sont assez. Ouais, alors, la grosse différence avec Hotline Miami, qui change beaucoup de choses, c'est l'introduction d'une dimension plateforme, parce qu'il y a du saut. Mmh. Et des endroits où tomber.
Et un moteur 3D, en fait, c'est un moteur 3D. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en polygone et non plus en 2D, bitmap, vue de haut.
On est toujours sur de la vue de haut, mais c'est plus vicelard dans la mesure où il y a tout un espace où on peut tomber et perdre la partie juste sur un petit décalage. Surtout qu'il y a des armes dynamiques qui permettent d'accélérer et de choper des grappes d'ennemis, mais qui aussi, si elles sont déclenchées un petit peu près d'un précipice ou... sont impitoyables.
Mais elles sont parfois nécessaires. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé ce jeu. Je trouve qu'il a un truc parce qu'on est quand même sur un genre très codifié. Hein, on va dire le comment on appelle ça, le shoot'em up en vue de haut, beat'em up, très graphique où on doit buter tout le monde dans une salle avant de sortir et dans un niveau avant de passer au suivant. C'est très codifié. On connaît ça un peu par cœur avec les Hotline Miami et compagnie. Lui, je trouve que bon, déjà il a une personnalité.
Juste, je fais une parenthèse. Ton et compagnie est un peu rapide parce que finalement, pas tant que ça, des Hotline Miami Like.
J'ai pas noté, il me semblait qu'il y en avait eu d'autres dans la même filiation comme ça, de rythmique. On est sur quelque chose de très rythmé. Si sur Switch, j'en ai quelques-uns, j'ai pas les titres en tête comme ça, j'ai des trucs où t'as dû jouer avec le temps, par exemple, tu dois récupérer du temps, j'ai plus son nom, j'ai un shooter dans le même style.
Oui, mais c'est pas un grand genre, si tu veux.
Il y a plein de séries B. En fait, c'est
Hong Kong Massacre, par exemple, pareil, en vue aérienne, mais que t'es pas très réussi non plus.
T'as beaucoup de séries B en fait qui sont greffées à ça. Lui, je trouve qu'il a une patte, déjà, il a un univers rigolo. Comme tu dis, l'ambiance, etc. Et pour moi, sa vraie trouvaille, c'est l'interaction avec le décor qui est très développée, c'est-à-dire que tu peux quasiment tout péter. T'as un vrai moteur avec une sorte de physique.
Tout brûlé aussi.
T'as le jeu avec le feu, exactement.
Au risque parfois d'être un petit peu illisible on ne fait pas gaffe.
C'est le parti pris. Moi, c'est un de mes bémols, c'est le côté. C'est une sorte de vue isométrique qui parfois prend. Moi, j'ai bien aimé, c'est que parfois, il y a des prises de. La caméra se fixe vraiment en aérien total quand tu rentres dans une bâtisse où t'as un vrai mouvement de caméra. Mais c'est ça qu'on est dans une sorte de 3D isométrique qui parfois fait que tu as des vrais défauts de caméra où ton perso devient invisible, et tu perds en visibilité. Donc ça, c'est un peu des problèmes. Mais moi, ce que j'adore, c'est donc ce côté de tout péter dans les décors. C'est que tu dois même jouer parfois avec le fait de casser une porte, tu peux à peu près t'approprier parfois certaines configurations du décor. Et puis, tu as ces armes qui ont des fonctions en plus. Tu as donc, par exemple, t'as une sorte de lame où, en général, les épées te font faire un saut en avant. Tu as les échelles qui vont te permettre de sauter où tu peux foutre des coups avec, où tu vas te propulser en laser.
Soit tu les fais tournoyer, soit tu l'utilises comme une espèce de trampoline.
Je vais pas parler d'un aspect aventure, ce sera un peu fort, mais t'as des moments où tu dois vraiment réfléchir à qu'est-ce que je vais utiliser pour atteindre tel ou tel endroit. Et je trouve que ça, c'est malin de combiner un côté très bourrin de l'action et en même temps d'apporter un petit twist comme ça de « Ah, tu dois cogiter, comment je vais faire ?»
Il y a une petite inventivité dans l'ordre du... d'utilisation des armes
exactement.
Pour que ça permette de passer le niveau le mieux possible.
Tout en gardant une rythmique très exigeante à la Hotline où tu dois toujours préméditer avec 2-3 coups d'avance.
Le jeu fonctionne bien parce qu'il est juste. Enfin, il est vraiment bien foutu dans le sens où quand tu crèves, tu sais que c'est toi qui es responsable.
Ouais. Sauf les caméras. Parfois qui peuvent être prises à défaut.
Les trucs de plateforme, moi, qui m'irritent un peu.
Les plateformes sont un peu en trop, mais malgré tout, je trouve que tout ça passe plutôt bien. Je trouve que l'ambiance le fait bien. Il y a des bonnes variations d'ennemis. T'as les ennemis qui vont avoir des boucliers. La gestion du feu, c'est tout bête, mais on n'a pas ça en général dans ce genre de gameplay. Moi, je trouve qu'il apporte. Il apporte quelque chose dans un genre très codifié. Et c'est pas évident. Et pour moi, c'est une vraie bonne surprise. J'avais très peur en le lançant. Visuellement, j'ai pas eu un coup de cœur en le lançant. J'avais plutôt peur. Enfin, il est très. Tu vois, il est très.
Cartoon Network,
classique,
quoi.
On envoie des tonnes
c'est
tous
très
les
Cartoon
jours.
Network. Ouais.
Très, voilà,
mais
très,
vous parliez du fait qu'on puisse éliminer les adversaires avec des carottes ou des flamants roses, par exemple, c'est l'aspect qui me séduit le plus, moi, de mais est-ce que cette liberté d'approche, c'est une vraie. Est-ce qu'on peut utiliser tous les éléments du décor comme ça, ou est-ce qu'il y a des moments où on se heurte à des objets qu'on ne peut pas utiliser ?
Il y a
quelques moments où tu es obligé d'utiliser. Par exemple, tu as des espèces de grosses presses qui se referment l'une sur l'autre.
Là, tu
es obligé de passer avec soit une épée, tirer, soit enfin des armes qui te permettent de te propulser, d'aller plus vite.
C'est ça,
mais
ouais.
Sinon, tu peux effectivement buter un par un les mecs avec une carotte, quoi.
Ouais, mais une courbe
alors
de
après,
progression.
T'as la
sauf
carotte,
que la carotte,
par
elle
exemple,
permet de taper qu'une seule fois.
Voilà, c'est
il faut retrouver une carotte à chaque fois.
Ouais. Quand le sabre te permet trois coups, donc il
donc faut toujours penser selon la configuration. Ce qui m'a un peu embêté aussi, c'est le fait que la caméra est fixe, donc avec ces 3D ISO, mais tu ne peux pas la bouger. C'est-à-dire que, il me semble, dans certains jeux, tu peux tourner, tu sais, déplacer ta caméra et voir pour justement préméditer tes
ah oui,
actions.
Là, tu découvres,
là
c'est
rigide.
Die and retry, quoi.
Alors, bah, c'est du die and retry, hein, c'est-à-dire que c'est à force de mourir et tu meurs très souvent. Et j'ai bien aimé, tu vois, abattre un arbre pour déclencher
une
passerelle. C'est tout bête, mais je trouve qu'il y a de l'astuce et du coup, ça te garde en éveil sur l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas seulement un décor
ça, t'es
que tu
éveillé,
traverses.
Ouais. Il y a quand même un côté.
Tu passes ton temps à regarder ce que tu vas faire, à réfléchir à ce que tu vas utiliser.
Juste pour faire un peu une petite différenciation avec Hotline, qui est quand même évidemment le jeu référence, on est moins claustro, on est moins enfermé que dans un Hotline où ça va être un bâtiment avec des portes à ouvrir, avec des trucs comme ça.
Oui, là, c'est très coloré, très
avec plus d'espace. Enfin, donc,
plus de liberté aussi, plus de liberté. Moi,
autant Hotline, ça m'est arrivé de faire, je sais pas, 25 ou 50 tentatives où à la fin d'une tentative à une autre, je savais que je faisais exactement le même parcours quasiment au pixel près jusqu'au moment où il y avait une inconnue et donc j'essayais d'améliorer comme ça une partie de mon jeu. Ici, même si on va rejouer un peu de la même on a plus ce côté au pixel près, c'est-à-dire que
il y a un peu plus d'impro.
C'est vrai que quand tu balances tes coups de hache un peu en mode smash, tu cartonnes un peu le bouton.
Il y a des moments qui demandent quand même d'être un peu précis. T'as des niveaux time attack qui t'obligent à tuer 15 cibles en moins de 40 secondes ou je sais plus quoi. Ça te demande vraiment de connaître l'endroit, enfin de connaître précisément la disposition des trucs, d'utiliser les bonnes armes dans le bon rythme.
Mais on retrouve évidemment ce système qui fait la force de ce type de jeu, c'est tu recommences immédiatement.
Il n'y a pas de chargement.
Pas de temps de chargement, c'est tu meurs, tu recommences.
Mais je trouve qu'il n'y a pas. Alors, je sais pas si ça tient à juste un plaisir personnel, mais il n'y a pas l'état de flow aussi fort que celui de Hotline. Pour moi, c'est la musique. J'en étais presque à théoriser le truc où je pensais que dans Hotline Miami, un des trucs, c'était que la musique s'arrête jamais. Elle n'est pas interrompue par ta mort. Et moi, je pensais que c'était le cas là dans le jeu. J'ai été revoir après, machin, et pas du tout. Et c'est juste que la musique, je trouvais moins forte, moins rythmée, moins hypnotique te dire viens, on y va, on continue.
Ouais. Ça te met moins
là, un peu moins le.
T'as peut-être moins de risque de crise d'épilepsie aussi, mais c'est autre chose. Mais oui, effectivement, Hotline, t'as une.
Mais Hotline Miami, moi, je pouvais faire des séances de.
T'as ce mariage musique,
complètement hypnotisé,
son,
là, moins
action.
Il est dispo où, Bloodroots?
Epic.
Bloodroots.
Il est sur Switch et sur PS4 aussi, je crois.
Oui, c'est ça. Donc,
sur PC, console. Donc Epic.
C'est 16 balles.
Franchement, si vous avez envie de retrouver un peu les sensations fofolles de Hotline Miami 2 ou de Hotline Miami.
C'est une bonne surprise.
Non, franchement, ouais. Surprise, ouais, c'est ça. Encore une fois, qu'on n'attendait pas. Ouais. On est obligé de vous laisser parce que moi, il faut que j'aille voir si mon nombre a fini Moby Dick. Hein. Faut arrêter de déconner. Il y a des choses importantes dans la vie. Donc, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Tiens, je commence avec toi, Marius.
Eh ben, je regarde des séries et il y en a une très très bien qui arrive, qui s'appelle The Plot Against America de David Simon. C'est une adaptation d'un bouquin de Philip Roth. Ça ne dure que 6 épisodes, c'est très bien, c'est une mini-série. Et ça imagine une Amérique qui se jette dans les bras de Lindbergh à la place de Roosevelt en 40. Sachant que Lindbergh est un antisémite notoire, et en gros c'est comment l'Amérique bascule dans le nazisme progressivement, avec ce truc génial qui est vraiment très très brillant dans la série, c'est que plutôt que de nous raconter l'Amérique ou raconter avec un point de vue macro dès le départ comme le fait si bien Simon dans Tremé, dans The Wire, là le spectre est réduit à juste une famille, quelques membres, et on s'éloignera très peu de ce centre-là. Et du coup, ça crée un truc très fort dans la dystopie qui est toujours vue de l'intime, sur les peurs, de chacun des personnages, et c'est très beau. C'est très très bien.
Cool. Et ça va être où?
C'est sur OCS à partir de lundi, je crois.
Ok. Julie?
Moi, quand je ne joue pas, je me fais une note mentale de regarder la série que tu viens de recommander. Parce que ouais, j'aime beaucoup David Simon. Et... mais entre-temps, première sur l'actualité, j'ai regardé un film sorti il y a longtemps, enfin sorti en 2019, The Lighthouse de Robert Eggers, que j'avais très envie de voir, donc qui a notamment réalisé The Witch, qui était son premier film, et qui, moi, était une de grandes claques de ces dernières années en termes d'horreur. Ouais. Et donc, je tenais absolument à le voir au cinéma. Il s'avère qu'il est encore diffusé dans quelques salles, parce que visuellement, c'est très impressionnant. Donc c'est ce film en noir et blanc filmé au format 4 tiers, c'est ça, oui, si je ne m'abuse.
4 tiers en salle.
Donc il suit deux gardiens de phare en fait qui viennent assurer la relève d'une équipe quelque part au large de la Nouvelle-Angleterre. Et donc c'est vraiment le récit des rapports entre un chef de phare et, qui se montre particulièrement autoritaire et désagréable avec son assistant. Et assistant qui commence à sombrer dans une espèce de folie, à être pris d'hallucinations liées à des sirènes. C'est vraiment un mélange en fait des écrits de Melville et de journaux de bord tenus par des gardiens de phare. Le réalisateur s'est aussi beaucoup inspiré de l'œuvre de l'écrivaine Sarah Orne Jewett, donc une figure du courant du régionalisme dans la littérature américaine. Et c'est vraiment un des films d'horreur, disons, qui ressemble pas à grand chose à ce que j'ai pu voir auparavant, qui effectivement est difficile à regarder, pour peu qu'on ait des problèmes avec la cruauté envers les mouettes, ce qui est mon cas, mais qui est vraiment très intéressant, qui propose quelque chose visuellement déjà très fort et en plus en termes de construction du récit et des personnages est très chouette. Vraiment.
The Lighthouse. Patrick ?
Je confirme pour Lighthouse, ouais, une belle expérience au cinéma. Moi je vais un peu tricher parce que j'ai à peine commencé un comics, mais bon, ouais, je vais en parler, j'ai à peine commencé quelques pages. Ça s'appelle Deceased.
Ah oui.
Alors ça vient de sortir, c'est donc chez Urban Comics, et donc c'est l'univers DC, donc Batman, Superman et compagnie, qui sont affligés d'une épidémie zombie et qui deviennent zombies.
Ah, c'est alors, le Marvel Zombie de...
Eh ben, exactement, rappelle-toi Erwan, c'est toi qui m'avais fait découvrir Marvel Zombies.
Oh, ça fait longtemps.
Ouais, ça fait très longtemps.
Oh là là.
Dans un avion, tu m'avais prêté un volume, et du coup, là, c'est DC qui s'y met, ce Deceased. Donc, je viens à peine de commencer, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Je trouve que visuellement, ça a l'air pas mal. Moi, j'adore, tu vois, autant Batman et compagnie, mais Superman. Moi, j'aime bien qu'on s'attaque à cette figure toujours un peu binaire, du bien, intouchable, immortel. Et bah là, il devient un zombie, a priori. Et moi,
tout ce qui fait du mal à Superman,
c'est intéressant. Tout ce qui remet en question, fait vaciller cette icône, je trouve toujours ça intéressant. Donc, j'en reparlerai peut-être quand j'aurai fini. Mais en tout cas, un bon feeling. Et puis Urban Comics qui fait toujours un beau travail. Là, il y a trois couvertures différentes avec Wonder Woman, Joker, Batman et Superman.
Ok.
Et ça se présente bien. En tout cas, oui, c'est du Marvel Zombies à la sauce DC. Et moi, je suis plus DC. J'ai toujours été plus DC. Et oui, ouais. Je fais partie de ça.
Très, très, très bonne chose.
À suivre. Et a priori, il y aura d'autres spin-offs dans cette thématique zombie DC.
Moi, j'ai découvert. Alors, je ne suis pas très, très. Enfin, je ne connais vraiment pas l'univers des podcasts de fiction. J'ai commencé à en découvrir. J'ai découvert Ornin. Ornin, c'est sur le network, je ne sais pas si on appelle ça un network de podcast, mais qui s'appelle Qualité, enfin voilà, Studio 404. J'avais parlé de Trajectoire, podcast de mathématiques qui était aussi. Là, c'est fiction avec un Q à la place du C. La dernière série, ils en ont fait deux, et la dernière s'appelle Ornin. Ornin, c'est 19 épisodes de un peu plus de 5-6 minutes en moyenne. Ça s'écoute très bien, ça se binge-écoute super bien. Il y a deux narrateurs qui alternent, et en fait on va suivre les aventures de Martin. Alors Martin, c'est un jeune homme qui un peu paumé, qui était venu sur Paris, il a fait du trading de Bitcoin, il est parti dans des affaires louches, et puis bon, il a été obligé de fuir dans sa région natale, la Meuse, et d'habiter chez sa mère qui habite dans la petite ville d'Ornin. Et il était un peu... il n'avait plus grand-chose à faire, donc il a trouvé des choses à faire et c'est parti un peu en cacahuète. Donc là, ça commence et on découvre que Martin, il a 1200 chefs d'accusation contre lui. Il est en prison et il va nous raconter son histoire. Ça dure, c'est écrit évidemment par l'incontournable Fibre Tigre, et pour le coup, c'est vraiment très cool. Moi, j'ai écouté ça sur 2 jours, ça s'écoute très très bien. C'est en podcast, donc sur le network de Qualité, sur vos applis de podcast préférés. Ça s'appelle Ornin et c'est sur la chaîne Fiction.
Comment t'écris Ornin ? Depuis tout le temps.
O-R-N-A-I-N. D'accord. En fait, c'est une rivière à la base, je crois. Et là, il en a fait une ville dans la Meuse. Fictive, je pense, du coup. Ou alors un petit village. Enfin, bref, on n'en sait rien. À la technique aujourd'hui, et comme chaque jour, chaque semaine, depuis longtemps, c'était Irénée Matuszewski. Et puis, ben, merci à tous les trois. Et puis, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.